Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous dans Europe Soir. Deux heures d'infos, de décryptage et de débat. Il est 18h sur Europe 1. Et au sommaire, vos départs en vacances perturbés par une grève à Roissy, un vol sur 5 annulé. Pour les personnels des ADP, les aéroports de Paris protestent contre leurs conditions de travail et de salaire. Galère à suivre en direct dans quelques instants. Et nous recevrons Michel Kidor de la Fédération des usagers des transports. Partir, c'est bien, mais cette année, ça coûte vraiment plus cher. Prendre sa voiture avec un plein à 1 euro de plus le litre que l'an dernier. Le TGV, mais avec des billets au prix fort. Bref, tout augmente. Alors pourquoi ne pas s'adonner au camping? Reportage dans le journal et débat à 19h15 dans Panorama. L'actualité, ce sont aussi les tractations entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne qui prépare son discours de politique générale mercredi prochain. L'exécutif qui devra composer avec une majorité relative et une commission des finances dirigée par LFI. Qu'en pense Laurent Marcangeli, le leader d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe, dans la majorité Ensemble? Il est notre invité politique à 18h15. Dans ce journal également, la suite des frappes dans le Donbass et les Ukrainiens qui tentent de fuir. Ils ne sont pas les seuls. Les Russes anti-Poutine aussi sont contraints de partir. Reportage dans un centre d'hébergement en Lituanie voisine à suivre. Le Tour de France, nous ferons une étape bien sûr dans le journal et nous retrouverons le Club Tour avec Axel May à 19h40. 18h30, ça fait débat. William Tay du think tank Le Millénaire face à l'avocat Jean-Yves Le Borgne. Vous êtes peut-être parmi les chanceux à être partis en vacances aujourd'hui. Enfin, je dis chanceux. Oui, il y a le repos, la famille, les amis, la liberté, l'évasion, tout ça. Le contexte, on le connaît malheureusement. L'essence plus chère, les trains aussi et l'avion. Même si la proportion des Français qui prennent l'avion est moindre, eh bien l'avion, il était un peu en vrac ce matin. Grève des agents des ADP depuis jeudi à Roissy, le plus gros aéroport de France, d'où partent la plupart des vols pour l'étranger, avec un durcissement ce matin puisqu'on est passé d'un avion sur 6 à un avion sur 5 annulé. Arthur Pereira, vous vous trouvez à Roissy justement avec des passagers qui n'ont pas pu partir comme prévu.
Effectivement Pierre, je me trouve juste en face tableau d'affichage et je peux vous assurer que beaucoup de vols sont encore retardés, ce qui a de quoi agacer les voyageurs comme Nicolas qui espère décoller pour Toulouse.
Initialement c'était 10h, il a été annulé et maintenant c'est 18h45. Il faut être zen puisque dans des situations comme ça on sait qu'on ne peut rien faire, donc voilà, on attend avec de la patience, des téléphones, des livres et on attend.
Assis en face de lui, Jules, son fils, a les yeux rivés sur son téléphone. Demain, direction la colonie de vacances et ses retards à répétition ne le réjouissent pas.
Pas que je me couche trop tard, parce que direct on parle le lendemain. Donc c'est pour ça que les retards, c'est un peu énervant.
Des vols retardés et parfois même supprimés, c'est le cas pour Nicole qui patiente avec son chien sur une petite banquette rouge. Après 11 heures de vol depuis la Martinique, son vol pour Lyon est annulé.
Je vais vous dire, j'en ai ras le pompon. Vous vous rendez compte, hier, on a été retardé de 3 heures à Pointe-à-Pitre. Donc on est arrivé ce matin à 11 heures. Et notre avion qui était à 17 heures, voilà, on n'en a pas. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire ce soir.
Dès demain, la situation devrait revenir à la normale. Mais dès le week-end prochain, de nouvelles grèves sont déjà prévues.
Merci Arthur Pereira. Et je vous propose d'écouter un autre Pereira, Nicolas. Rien à voir avec Arthur. Nicolas Pereira de la CGT Roissy. Il était l'invité de nos confrères de BFM TV il y a quelques instants.
Les syndicats ne sont pas les seuls responsables. Et encore moins les travailleurs et les travailleuses qui sont eux au service des passagers et ils sont de bonne volonté. Nous le regrettons fortement. C'est pour ça qu'on avait démarré notre mouvement au mois de juin, en espérant être entendu. Alors on a été écouté, on le constate, hein, mais pas entendu. Et la souffrance des salariés des métiers de l'aéroporteur n'est vraiment pas entendue. Et il y a urgence à faire quelque chose. Donc je souhaite qu'on s'adresse aussi au patron de la même manière qu'on s'adresse au syndicat. Nous ne sommes pas responsables de la situation et nous le regrettons fortement.
Bonsoir Michel Kidor.
Bonsoir.
Vice-président de la FNOT et président de la Fédération Européenne des Voyageurs. Quand vous entendez justement ce représentant syndical de la CGT Roissy qui dit « nous le regrettons mais nous sommes contraints de faire grève », vous lui répondez quoi ?
Ben, il y a des gens qui regrettent encore plus que lui, ce sont les voyageurs qui qui n'ont rien à voir dans le conflit. Le conflit est peut-être juste, justifié, légitime, mais les voyageurs n'ont pas à pâtir d'un conflit qui oppose soit la compagnie aérienne à ses travailleurs, soit l'aéroport de Paris à ses travailleurs. Les voyageurs, vos reportages le montrent bien, ils sont complètement isolés, laissés à eux-mêmes, et c'est pas supportable, quelle que soit la période à laquelle se passent ces mouvements, mais particulièrement une période de grande migration comme celle de ce week-end ou du week-end prochain.
Mais on l'a vu dernièrement, hein, le fait de choisir un jour de départ en vacances est de plus en plus fréquent. Est-ce que les Français doivent peu à peu s'y habituer ?
Ah ben, je pense qu'il ne faut pas s'habituer à ce genre de choses, parce que ça serait être victime, consentir à sa propre souffrance. Et je pense que les voyageurs, et c'est pour ça que notre fédération existe, sont là pour résister et faire appliquer le droit, et le droit à se déplacer, qui fait partie effectivement des droits fondamentaux du citoyen.
Il y a 15 ans, je crois, une disposition permettait un service minimum de transport. Dans mon souvenir, c'est assez lointain. Ça n'a jamais vraiment abouti à 100%. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas ?
Ah ben, je pense que ça n'aboutit pas parce que personne ne veut que ça aboutisse. Je sais que c'est aussi une de nos demandes, un service minimum, notamment dans ce qui s'appelle le transport public. Le gouvernement nous avait entendu apparemment en 2020, puisqu'il y avait un haut fonctionnaire juriste qui avait été nommé pour piloter une commission qui serait chargée de jeter les bases de ce service minimum. Mmh. Ça s'est perdu dans les sables et on n'en a plus jamais entendu parler.
Demain, apparemment, c'est un jour payé double pour les agents des ADP. Est-ce que c'est pour cela que le trafic devrait repartir à la normale, ou est-ce qu'il y a une autre raison à votre avis ?
Ah ben ça, c'est à eux qu'il faut le demander, cher monsieur. Moi, je pense que là, demain, c'est dimanche, c'est payé double. Peut-être, là, franchement, je peux pas vous répondre. C'est eux qui vous expliqueront les causes de leur mouvement ou de la cessation de leur mouvement.
Merci beaucoup, Michel Kidor, vice-président de la Fédération nationale des usagers des transports, président de la Fédération européenne des voyageurs, d'avoir été avec nous. Il y a aussi un problème de bagages qui, effectivement, n'a pas été évoqué, mais il y a énormément de bagages qui sont laissés à l'abandon dans cet aéroport de Roissy, faute de bagagistes, c'est ce que disent les syndicats. Je le disais, cette année, avec une inflation qui fluctue actuellement autour des 5,8% sur un an, tout est cher. L'essence à 2,30 €, c'est environ 1 euro plus cher que l'été dernier. Le train avec des billets au plus fort, on vous en a parlé longuement sur Europe 1. Résultat, on réduit la voilure sur le reste, sur les restaurants, mais aussi sur les types de logements. Alors, tous au camping, il y a bien entendu les aficionados, mais des novices s'y mettent. Frédéric Michel a assisté aux préparatifs dans un beau camping du Var. Reportage.
Bonjour. Vous avez beaucoup de jacuzzi à nettoyer aujourd'hui ?
Aujourd'hui pas spécialement, mais c'est de l'avance.
Dans ce camping 5 étoiles au cœur du massif de l'Estérel, Aurore Laroche s'apprête à accueillir avec ses équipes un millier de vacanciers.
Est-ce que tout va bien ?
Ça va.
Vous venez contrôler.
La directrice d'Estérel Caravaning est sur tous les fronts. Tout doit être prêt.
On vérifie tout le mobil-home avant chaque arrivée, quoi. Tout sera prêt, tout est bon après. Hein.
Nous avons 331 mobil-home à la location et 164 emplacements pour caravane ou camping-car.
Hier, il a fallu aussi accueillir les nouveaux saisonniers.
Bienvenue. On va vous présenter à tout le monde.
Ce sera une de nos surveillantes de toboggan. Et c'est sa première journée aujourd'hui. En tout, pour la saison, nous allons monter jusqu'à 86 personnes. On multiplie par deux le personnel. Alors, ce premier week-end nous annonce une saison exceptionnelle parce que nous avons le retour des Européens. Les Français n'arriveront que le week-end d'après. Mais nous avons la chance d'accueillir les Anglo-Saxons, les Allemands sont de retour, nos familles belges.
La France est le leader européen de l'hôtellerie de plein air. Elle occupe la seconde position au niveau mondial.
Et voilà, reportage de Frédéric Michel dans le Var. Rendez-vous dans Panorama à 19h15, le tourisme en plein air à la côte. C'est notre sujet de discussion tout à l'heure. D'autres discussions ce week-end à l'Elysée, pas vraiment sur le même sujet, entre le président et la première ministre Elisabeth Borne. Mercredi, elle devrait tenir son discours de politique générale. Question avant ou après le remaniement qui verrait remplacer les ministres démissionnaires et les ajustements qui vont avec. Le tout dans une assemblée à la majorité relative. On en parle juste après ce journal avec le député de Corse, Laurent Marcangeli, leader d'Horizon, et décryptage aussi à 19h dans le journal de Sophie Tussaud avec Louis de Raguenel. Quant à Éric Coquerel, le tout nouveau président de la Commission des Finances, il devrait publier une tribune ce week-end pour s'expliquer. Je rappelle qu'il fait l'objet d'accusations de la féministe Rokhaya Diallo, qui dit qu'il a eu un comportement douteux avec des femmes. 18h09, dans un instant, direction de la Lituanie. Un centre de demandeurs d'asile reçoit des Ukrainiens, mais aussi des Russes qui fuient le régime de Poutine. A tout de suite.
Europe Soir Weekend, informez-vous avec Pierre de Villeneau sur Europe 1.
En Ukraine, de violents combats à Lysychansk, cette ville de l'Est est au cœur de la bataille pour le contrôle du Donbass. Les séparatistes pro-russes disent l'avoir totalement encerclé, ce que conteste l'armée ukrainienne. Pendant ce temps, les Ukrainiens continuent de fuir, notamment vers les pays voisins. La Pologne, par exemple, accueille désormais près de 3,5 millions de personnes. En Lituanie, les Ukrainiens arrivent, mais pas que, il y a aussi des Russes qui s'opposent à la guerre et plus généralement au régime de Vladimir Poutine. Inutile de vous dire les risques qu'ils prennent à rester en Russie. Caroline Baudry s'est rendue dans un centre spécialisé pour ces réfugiés politiques à Yeznas, en Lituanie, à 100 km de Vilnius. Reportage.
Vladimir piétine dans la chambre qu'il partage avec un autre opposant russe. La seule décoration, un drapeau ukrainien déployé sur le mur, le même qui, brandi à Saint-Pétersbourg, a jeté sa collègue en prison.
Elle risque entre 5 et 10 ans pour diffusion de fausses informations sur ce que fait la Russie en Ukraine, trahison politique et appartenance à un groupe.
Un groupe de 5 activistes dont Vladimir fait partie. Le colosse s'assoit lourdement sur une chaise. Les photos de manifestants pancarte à la main défilent sur son téléphone.
C'est écrit « Stop Poutine noir in Ukraine ». Ils appellent cela des fausses informations. Nous appelons cela la vérité. J'ai quitté la Russie car j'avais peur pour ma liberté et ma sécurité. La plupart des gens qu'ils considèrent comme capables de s'organiser pour protester sont soit en prison, soit exilés.
Dans 6 mois, peut-être plus, il pourrait obtenir son statut de réfugié politique.
Si nous ne voulons pas que notre civilisation périsse, nous devons nous unir. Pas pour arrêter la guerre. Pour arrêter Poutine et tout ce que cela signifie. Lâcher une bombe dans son bunker ou j'en sais rien.
Selon lui, 20% des Russes s'opposent au maître du Kremlin, tapis dans le silence. Yeznas, Caroline Baudry, Europe 1.
Le sport maintenant avec le Tour de France.
Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Energy. Tout de suite, le point étape.
Le Tour de France à Nyborg, au Danemark, où l'on retrouve Martin Lange. Bonsoir Martin.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Et des chutes sur le Tour aujourd'hui.
Oui, des chutes sans gravité a priori, même si le maillot jaune Yves Lampaert a goûté au bitume sur le fameux pont du Grand Belt. Alors tout s'est joué au sprint ici à Nyborg, victoire du Néerlandais Fabio Jakobsen, encore un coureur de la formation Quick-Step. Ça fait 2 étapes sur 2 pour l'équipe belge, pas mal malgré l'absence du champion du monde Julian Alaphilippe. Jakobsen, c'est la belle histoire, il y a 2 ans il s'était retrouvé dans le coma après une chute sur le Tour de Pologne, pronostic vital engagé, il lui avait fallu près d'1 an pour remonter sur un vélo. Sur la ligne cet après-midi, il a devancé Wout van Aert, le maudit, encore 2e comme hier, et Mats Pedersen, le Danois, qui a tenté d'anticiper devant son public. Alors van Aert va pouvoir se consoler puisque c'est lui qui endossera le maillot jaune demain grâce aux bonifications. Il est désormais classé dans le même temps que Lampaert, qu'il devance au général grâce à ses 2 deuxièmes places. A noter aussi le tout premier blanc à, maillot blanc à pois rouge de ce tour, toujours un maillot qui déchaîne les passions, et il est pour un Danois, Magnus Cort Nielsen, échappé aujourd'hui et qui était de loin le plus acclamé ici à Nyborg.
Merci Martin Lange, et on retrouve bien sûr Axel May tout à l'heure à 19h40 pour le Club Tour, le tennis à Wimbledon. Bonsoir Colin Abgral.
Bonsoir Pierre.
Fin du 3e tour aujourd'hui, et d'abord une belle surprise côté français.
Oui, il y a un petit conte de fées à Wimbledon, c'est la française Harmony Tan qui s'est hissée en 8e de finale en battant 2-7 6-1 6-1 la britannique Katie Boulter en début de journée. De toutes les chances tricolores, s'il fallait mettre une pièce sur quelqu'un, ça n'aurait sûrement pas été elle. Harmony Tan, 24 ans, 115e mondiale, elle n'avait gagné que 2 matchs en grand chelem dans sa carrière, rendez-vous compte. Mais elle le dit, sa victoire face à la légende Serena Williams au premier tour sur le court central résonne aujourd'hui comme un acte fondateur.
Je crois beaucoup au destin. À la fin du match contre Serena, je me dis ça doit être mon destin si je dois gagner ce match. Et je pense que ça m'a fait du bien de le gagner. Peut-être un petit déclic. Parce que gagner une légende sur le central à Wim, c'est pas souvent. Donc ça m'a fait vraiment énormément de bien.
Et elle est donc en 2e semaine. Elle sera opposée à la tête de série numéro 20, l'américaine Anisimova. En revanche, chez les hommes, Richard Gasquet, dernier représentant français, s'est incliné face au néerlandais Van de Zandschulp en 4 manches, 7-5, 2-6, 7-6, 6-1.
Encore quelques matchs ce samedi, surtout celui de la dernière française engagée.
Oui, c'est Alizé Cornet qui va tenter de réaliser un exploit monumental car elle est en ce moment même opposée à la numéro 1 mondiale, la polonaise Iga Świątek. Elle a pris la première manche 6-4, mais Iga Świątek mène actuellement 2-0 dans la 2e manche. Et puis juste derrière, nous jetterons un œil attentif quand même à la performance de Raphaël Nadal opposé à l'italien Lorenzo Sonego.
Tu m'étonnes. Merci Colin Abgral. La météo, encore du soleil, Valérie Darmon.
Absolument, le ciel est juste un petit peu plus variable dans le sud-ouest avec quelques averses qui se déclenchent en matinée et qui feront du bien d'ailleurs aux vignobles et aux jardins. Partout ailleurs, le soleil est généreux, passagèrement voilé le long de la Manche et avant l'arrivée surtout des orages, des Pyrénées au Massif central et sur les Alpes ainsi qu'en Nouvelle-Aquitaine. Les minimales seront comprises entre 8 et 13 degrés sur la moitié nord, 14 à 18 dans le sud, jusqu'à 22 en bord de Grande Bleue. Les maximales sont élevées dans le sud-est avec 38 degrés du Languedoc au Var. Ailleurs, on attend 26 à 33 du nord-est, c'est-à-dire Alsace et Lorraine, au sud du pays, et 19 à 26 sur un bon quart nord-ouest.
Merci Valérie Darmon. Dans un instant, l'invité politique, Laurent Marcangeli, est député de Corse. Il est surtout le président du groupe Horizon à l'Assemblée. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Place à notre invité politique du soir, il est député de la première circonscription de Corse du Sud et président du groupe Horizon. Bonsoir Laurent Marcangeli.
Bonsoir.
Dans cette assemblée qui, contrairement à ce qu'on dit, n'aura pas des allures de 4ème République, mais pas non plus la même facilité que dans une majorité absolue, quel rôle pour Horizon, le parti d'Édouard Philippe, qui compte 30 députés sur 577 ?
Ben, d'abord, être fidèle au message que nous avons porté depuis la fondation de notre parti au mois d'octobre dernier, à savoir essayer de définir une stratégie pour notre pays qui a besoin, je le pense, d'avoir des idées claires vu la situation politique qui est la nôtre et surtout
ce défi. Les idées claires, ça veut rien dire les idées claires.
Les idées claires, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire où on va en matière de sécurité, ça veut dire où on va en matière de dette publique, ça veut dire où on va en matière d'éducation, où on va en matière de santé et surtout L'autre élément de l'ADN de notre parti et de la manière que nous allons avoir de travailler à l'Assemblée nationale, c'est essayer de ne pas être sur la punchline pour la punchline, c'est essayer de se départir de la petite phrase.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est souvent ça dans une assemblée parlementaire ?
Excusez-moi, mais on a eu droit à une semaine qui était quand même haute en couleur.
C'est vrai.
Voilà. Et je crois franchement que
c'est vrai, je vous donne raison.
On est parti pour avoir pas beaucoup de fonds, pas beaucoup de stratégies, beaucoup de petites phrases, beaucoup de scandales. Et en tout cas, il ne faut pas compter sur Horizon pour être dans cette manière de faire.
Laurent Marcangeli, est-ce que d'une certaine manière, vous êtes le fer à souder de la Macronie et des LR ?
Nous allons essayer de rapprocher des points de vue dans l'intérêt du pays. Je pense qu'il sera nécessaire non seulement d'aller vers la droite, mais parfois également de convaincre les hommes et les femmes de bonne volonté à gauche pour construire des majorités d'idées texte par texte, puisque malheureusement, nous le regrettons, la grande coalition n'a pas été possible.
Mais vous dites plusieurs choses. Vous dites d'abord, et je reprends un mot qui là pour le coup est vraiment plein de sens, c'est loyauté. Vis-à-vis, vous dites loyauté du gouvernement, vis-à-vis du président de la République, mais la loyauté, elle est sans limite, sans aucune limite ?
La loyauté, c'est comme dans la vie, on est loyaux vis-à-vis de ses amis et parfois on peut être loyal tout en partageant un désaccord. On n'est pas inféodé, c'est ce que je veux dire, puisque ce n'est pas dans l'ADN non plus de notre parti de l'être. En revanche, on a partagé la campagne du président de la République et je vous rappelle qu'on a signé une plateforme commune, on s'est présenté dans les 577 circonscriptions avec un projet qu'on va devoir défendre, même s'il va falloir l'amender, eu égard aux résultats que les Français ont souhaités.
Oui, parce que si on vous fourgue un texte aux antipodes de vos convictions, peut-être que ça n'arrivera pas, mais si ça se passe, qu'est-ce que vous allez faire ?
Ah, je suis également membre d'un parti politique qui donc se veut loyal, mais libre. Libre et, comme je vous l'ai dit, nous avons les idées assez claires sur un certain nombre de sujets. Et je ne pense pas qu'il soit dans l'intention du gouvernement ou du président de la République de nous fourguer, comme vous nous le dites, un texte qui soit aux antipodes de nos idées.
Bah. Vous savez, Marcangeli, depuis le temps que je fais ce métier, on en a vu des choses. Donc je me permets, je fais référence à la semaine politique que vous m'avez refourguée d'une certaine manière aussi. Donc effectivement, il peut se passer parfois des choses qui ne sont pas prévues et vous me donnerez raison aussi. Vous dites, nous sommes l'aile droite de la majorité. Mais par exemple, ni Bruno Le Maire, ni Gérald Darmanin ne sont chez Horizon. Et si vous êtes l'aile droite, où est-ce que vous situez le président de la République ?
Le président de la République, il est au-dessus de tout ça.
Ah bah, j'étais sûr. Vous allez citer le préambule de la Constitution.
Le président de la République, il est au-dessus de tout ça. Il est le président de tous les Français. C'est d'ailleurs très difficile d'être président de la République. Je ne vous le cache pas. Il doit être l'homme de la nation. Il doit faire face à de nombreux défis. Et nous, nous sommes organisés dans des groupes politiques, à l'Assemblée nationale et dans la vie politique avec des partis.
Je vais vous poser la question autrement. Comment est-ce que vous réagissez quand certains observateurs, et certains d'ailleurs détraqueurs d'Emmanuel Macron, disent que c'est un président de droite ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'au moins, en partie, c'est un président de droite ?
Moi, j'essaye de voir ce qu'Emmanuel Macron a fait depuis le début de son engagement dans la vie publique. Je crois que c'est quelqu'un qui a plutôt essayé de dépasser un certain nombre de clivages. Tout comme, d'ailleurs, à titre personnel, j'ai été maire jusqu'à 2 jours sur ma ville ou sur une intercommunalité. Parfois, on dépasse un peu tout ça pour aller dans le sens du progrès et de la réussite pour son territoire. Je crois qu'Emmanuel Macron essaie de faire ça depuis plus de 5 ans au niveau du pays tout entier.
Vous dites, nous, on est à droite, le MoDem plus centriste. Est-ce que ça veut dire que Renaissance, donc le reste, est à gauche ?
L'origine de La République En Marche était majoritairement, au départ, située sur un espace social-démocrate. Ce n'est pas une injure de le dire, et c'est très bien d'ailleurs comme ça. Ensuite, il y a eu des élargissements qui ont été, je pense, rendus faciles par la manière qu'Emmanuel Macron a eu de faire de la politique, de se présenter devant les Français, et donc des gens plus à droite l'ont rejoint. Donc il est sur un espace central assez large, qui va de la social-démocratie à un centre-droit dont je fais partie.
Le Rassemblement national compte 89 députés, c'est du jamais vu. Hein. Marine Le Pen est très critique vis-à-vis du président de la République. Elle a néanmoins appelé à une opposition constructive. Sur quoi cela va se jouer ? Sur les amendements ?
Écoutez, moi j'attends de voir les propositions qui seront faites par le Rassemblement national. J'ai dit déjà chez certains de vos confrères que si demain le Rassemblement national était susceptible sur un texte d'apporter une amélioration pour... la politique que nous souhaitons mener, je ne ferai pas partie de ceux qui diront c'est le Rassemblement national qui le propose, il faut le rejeter. Je regarderai le texte, je regarderai ce qu'il apporte ou ce qu'il n'apporte pas et je voterai en conséquence.
Donc vous n'aurez pas ce cordon sanitaire, puisque c'est l'expression qui vient le plus souvent concernant le Rassemblement national.
Moi, le cordon sanitaire, je l'ai par rapport à un certain nombre d'idées que prône le Front national ou le Rassemblement national.
Comme quoi ?
La sortie, ne pas respecter les traités européens et donc sortir d'une manière ou d'une autre de l'Union européenne, même s'il s'en défend, ce n'est pas véritablement l'ADN de mon engagement politique.
Il y a exactement la même chose chez la NUP, puisqu'en plus, ils l'ont dit, qu'il y aurait une désobéissance. Ça faisait partie justement des points de friction entre le Parti
NUP,
socialiste et LFI.
Mais sur la NUP, et notamment LFI, on pourrait en dire encore plus, parfois.
Mais lorsque pourquoi est-ce qu'on parle de cordon sanitaire du côté du RN et pas de cordon sanitaire du côté de la NUP ?
Moi, je ne vais pas reprendre des discussions qui font passer, penser aux années 90 et qui ont donné d'ailleurs 90 députés au final et 2 finales d'affilée de l'élection présidentielle avec Marine Le Pen qui a quand même obtenu 42%. On voit bien que le cordon sanitaire et la diabolisation, ça ne sert à rien. On voit bien que quand notre jeune Benjamin, député, ne serre pas la main de ses collègues qui sont tout aussi légitimes que lui parce qu'ils sont Rassemblement national, ça ne sert à rien. Et que cette espèce de théorie visant à dire qu'il ne faut pas parler avec le Rassemblement national, il ne faut pas débattre avec le Rassemblement national, il faut ignorer le Rassemblement national, ne marche pas, parce que des millions de Français votent pour ce parti politique. Il faut plutôt se demander pourquoi nous en sommes arrivés là.
Éric Coquerel va présider la commission des finances. Est-ce que vous allez scrupuleusement surveiller son fonctionnement ?
Moi, je vous dirais qu'Éric Coquerel, il est parlementaire. D'abord, il est légitime, il a été élu par la commission. Ensuite, effectivement, il a plus, selon moi, de devoirs que de droits.
Voilà, c'est-à-dire
il a un devoir de remplir correctement cette fonction, qui est une fonction prestigieuse, mais qui est également une fonction importante dans le fonctionnement, justement, de l'Assemblée nationale. Les lois de finances, ça compte. Les responsabilités qu'a le président sont importantes. Et j'espère qu'il en tiendra compte dans sa manière de présider. Je ne fais pas de procès a priori, je le dis très clairement. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'il a dit une fois qu'il a été élu. Il a dit qu'il présiderait correctement. Il a pris un certain nombre d'engagements devant les médias et devant la commission qu'il a élue. Donc voilà, moi je ne fais pas de procès a priori. Je déteste qu'on m'en fasse, donc je n'en fais pas aux autres.
Idem sur les rumeurs concernant Éric Coquerel.
Alors les rumeurs, elles viennent de son camp, si je puis me permettre. Je ne le connais pas personnellement. Je ne suis pas amené à le fréquenter et sur ce qui concerne la vie personnelle, je serais bien normal de pouvoir vous dire qui est Éric Coquerel.
Une dernière question, Laurent Marcangeli, parce que d'abord la Corse est un territoire de destination estivale, vous le savez mieux que personne après avoir été effectivement le maire d'Ajaccio. Et puis cette grève qui tombe à l'aéroport de Roissy, le plus gros aéroport de France, un jour de départ en vacances, quelle est votre réaction ?
J'ai toujours une réaction d'abord de sympathie pour celles et ceux qui voient leurs vacances gâchées par ce type de mouvement. Ce sont des choses qui arrivent souvent dans notre pays. L'objectif est évidemment de perturber le trafic aérien en départ de vacances. je ne pense pas que ce soit de nature à rendre les Français plus heureux, plus contents, et qu'on a toujours d'autres solutions que de bloquer, alors que les Français ont bien besoin de repos. Ils ont vécu des moments difficiles. Le fait de partir en vacances est toujours une joie. Et je pense que c'est un mauvais coup pour le moral de nos compatriotes, également aussi pour notre économie.
Est-ce que in extenso, ce n'est pas aussi le reflet de ce qui se passe plus généralement? Vous savez, on dit souvent que bah voilà, les décisions elles devraient avoir lieu à travers la démocratie, à travers justement la démocratie représentative, le Parlement. Mais parfois, bah, ça se règle dans la rue parce que certains vous diront bah, on n'a pas d'autre moyen de nous exprimer puisqu'on ne nous écoute pas.
Moi, je pense que tout doit se dérouler dans le terrain démocratique. Je fais partie de ceux qui le considèrent ça. Je ferai toujours partie de ceux qui feront en sorte que les choses n'aillent pas dans la rue. Après, le droit de manifester, c'est un droit reconnu par notre Constitution, par nos textes fondamentaux. C'est un droit qui doit être préservé et défendu. Mais je fais partie de ceux qui essayent toujours de faire en sorte que ça ne finisse pas comme cela. Donc, ça demande du dialogue. Ça demande une démocratie sociale également, peut-être un peu plus forte. Et ça demande aussi à ce que les Français... reprennent le goût de parler ensemble parce que nous le sentons, il y a quand même un climat très pesant, c'est un danger pour notre pays, je sens beaucoup de colère dans le cœur de nos concitoyens et c'est à nous politiques d'essayer avec les autres forces sociales de ce pays, de la société civile, des syndicats, de celles et de ceux qui comptent, pour essayer de recoudre un peu ce tissu français parce qu'il est abîmé et en tant que Français je suis assez inquiété. Et inquiet par la situation dans laquelle nous sommes. Mais il faut travailler. Et comme je suis un optimiste, je pense que nous avons de quoi le faire.
Y compris à travers ce CNR, ce Conseil National de la Refondation.
Ça pourra prendre le nom que ça voudra. Le président a voulu qu'il s'appelle comme ça, parce qu'il voulait faire une référence à des temps particulièrement troubles, oui. Ceux de l'après-guerre. Nous ne sommes pas dans l'après-guerre, mais nous sommes dans une situation, comme je vous le disais, qui est particulière. Nous avons vécu une épidémie mondiale. L'économie ne va pas au mieux. Vous avez la guerre en Europe pas très loin de chez nous. La situation est quand même très tendue. Et je crois qu'il va falloir faire de preuve de beaucoup de sérieux, mais également de beaucoup de travail. Et le CNR, c'était surtout l'alliance des communistes, des gaullistes, des chrétiens démocrates, des socialistes pour reconstruire le pays après la guerre. Mais ça tombe bien, nous avons une Assemblée nationale qui représente beaucoup de couleurs. Et je crois que l'intérêt du pays doit l'emporter sur les intérêts partisans.
Merci beaucoup, Laurent Marcangeli, d'avoir été en direct sur Europe 1, député de la première circonscription de Corse du Sud et président du groupe Horizon. Dans un instant, ça fait débat.
Europe Soir Weekend,
Pierre de Villeneau.
Ça fait débat avec aujourd'hui Jean-Yves Le Borgne. Bonsoir.
Bonsoir.
Avocat, ancien bâtonnier. Et bonsoir à William T, qui est en ligne avec nous, je crois. Non, ah bah, on va réussir à le joindre dans un petit instant. William T, président du think tank Le Millénaire. Dites donc Jean-Yves Le Borgne, il s'en est passé quand même des choses cette semaine. Politique, Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizon, nous disait que c'était une succession de punchlines les unes après les autres. Et tout ça, bah, pour pas grand-chose. Vous êtes d'accord?
Bah, y a pas encore de résultats. Y a d'ailleurs pas non plus de propositions. On est encore dans une situation préparatoire. On ne sait pas quelle sera la formule définitive du gouvernement qui se présentera devant l'Assemblée nationale. Donc, on est dans un temps d'attente qui laisse évidemment un sentiment d'incertitude. Les concepts ne sont pas explicités. Il va y avoir des choix à faire. On nous parle d'une loi qui pourra, dans une certaine mesure, faire face aux difficultés financières que connaissent...
La loi sur le pouvoir d'achat.
Oui, ouais. Que connaissent certains de nos compatriotes, dont on ne connaît pas encore le détail. Il va aussi, et ça c'est le point peut-être le plus important, parce que c'est l'élément nouveau, que va donner l'opposition? Est-il concevable qu'une opposition de gauche, qui se préoccupe tout naturellement, d'ailleurs comme la majorité, du pouvoir d'achat des Français, s'oppose à une mesure qui tendrait à l'améliorer? Est-il concevable que le Rassemblement national, alors que Marine Le Pen a fait sa campagne sur le pouvoir d'achat, s'oppose à ce même projet? Alors, bien entendu, on peut toujours dire que c'est insuffisant. Mais dire que c'est insuffisant, est-ce un apport suffisant?
William T, bonsoir.
Bonsoir.
On a dit, Laurent Marcangeli faisait remarquer que cette semaine écoulée était une série de punchlines les unes après les autres. Et finalement, pour pas grand-chose. Alors effectivement, on est dans un moment, comme le disait Jean-Yves Le Born à l'instant, de préparation, mais quand même, c'est, on a l'impression que c'est... Ça accouche un peu d'une souris, tout ça. Hein.
Normalement, l'élection présidentielle et l'élection législative qui suit doit en fait permettre de clarifier un débat. Et ensuite, après, ça permet au camp qui gagne en fait, de rassembler l'ensemble des Français. La situation que nous avons rencontrée à l'occasion des élections législatives a créé à peu près 4 blocs. Le bloc de la NUPES mené par la France Insoumise, le bloc de la majorité présidentielle, les Républicains et le Rassemblement National. Et en fait, chacun de ces blocs, plutôt que d'essayer de parler à un autre bloc et donc de parler à d'autres électeurs, essaie de parler à ses propres électeurs.
C'est Radio Londres. Les blocs parlent aux blocs, je répète. Voilà.
C'est, en fait, ils parlent à leurs blocs électoraux et donc à leurs segments électoraux. Et donc, du coup, ils sont obligés de parler en termes de punchline pour mobiliser leur base électorale. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une campagne présidentielle et une campagne législative qui clarifie le débat, eh ben, en fait, on est rentré en campagne permanente dans la mesure où vous avez une instabilité qui est conduite par le fait que la majorité présidentielle n'est qu'une majorité relative et que la plupart des députés ont en tête une éventuelle dissolution. Et en vue de préparer cette dissolution, et comme les députés ont été élus sur un mandat qui est clair, en fait, ils parlent à cet électorat-là en vue de se faire réélire, en vue des élections législatives anticipées. Et sur la question du pouvoir d'achat, effectivement, la question du pouvoir d'achat réunit toutes les formations politiques. C'est-à-dire que toutes les formations politiques veulent répondre à la problématique du pouvoir d'achat dans la mesure où nous avons une inflation qui est très forte. Mais la question, ce n'est pas est-ce qu'on sommes d'accord pour améliorer le pouvoir d'achat. La question qui est posée aux formations politiques, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec les solutions proposées par le gouvernement pour répondre à la question du pouvoir d'achat. Il y a la gauche qui va dire que notamment le gouvernement n'intervient pas assez sur les plans keynésiens et d'augmentation de la dépense publique pour soutenir le pouvoir d'achat par la consommation, donc en augmentant les salaires à la fois du privé et des fonctionnaires. Il y a la droite qui
dira... Quitte à augmenter les impôts.
Et la droite dira à ce moment-là, le gouvernement n'intervient pas assez sur la baisse des dépenses publiques et pas assez sur la baisse des taxes parce que le gouvernement intervient trop par la hausse des dépenses publiques et donc mène... investit sur les ménages à venir et donc sur les enfants à venir, sur les générations qui sont futures et donc menace sa stabilité à long terme. Et le Rassemblement national, il va dire un peu des deux. En fait, il va dire que d'un côté, il faut augmenter davantage les dépenses publiques et également baisser les impôts, ce qui est le discours le plus paradoxal.
Alors, je vous coupe un peu dans votre élan de discussion politique, mais enfin, je reçois quand même un urgent de l'AFP qui mérite d'être cité, qui, comme on dit dans le langage un peu familier et courant, ça vaut son pesant de cacahuètes. Je vous signale, je vous annonce que notre Alizé Cornet nationale vient de battre à Wimbledon au 3e tour, Iga Świątek, la numéro 1 mondiale. Alors ça se fête. Hein. Alors moi je vais vous dire, j'applaudis Alizé Cornet. Parce que honnêtement, se faire, si j'ose dire, la première joueuse du monde à Wimbledon sur un terrain qui n'est pas facile... en fait, ça mérite quand même des applaudissements. On y reviendra, bien sûr, dans Europe 1 Sport tout à l'heure à partir de 20h et puis dans le journal de 19h. Cette semaine politique, elle arrive. On a une Elisabeth Borne qui planche, bien sûr, son discours de politique générale, qui a été, cette première ministre, un peu, j'allais dire, orpheline du président de la République, qui avait quand même beaucoup de choses à faire au niveau international puisque ça a été sommet sur sommet. Et on le sait, la présidence française de l'Union européenne vient se terminer. On vient de passer la main aux Tchèques. Donc là, week-end studieux pour un discours qu'on espère, en tout cas Jean-Yves Le Born, avec un axe bien précis.
Je dirais, soyons lucides, que quel que soit le contenu de ce discours, les propositions, les orientations, parce que j'imagine qu'on ne sera pas dans le détail des projets de loi qui vont être présentés, mais dans des orientations générales de la politique gouvernementale. On va se retrouver devant la situation qu'on connaît, c'est-à-dire ces divers blocs, et William Tay citait ces 4 blocs, je suis d'accord avec le fait qu'ils existent, et surtout qu'ils sont en train de préférer leur survie à un accord de gouvernement au coup par coup. Ce qui fait que on est un peu dans cette situation où la France semblerait ne jamais, enfin, ou du moins ses élus, semblerait ne jamais vouloir être dans une position de relative faiblesse quand on n'est pas majoritaire. On soit en fait dans cette sorte de nostalgie permanente d'un pouvoir fort avec un président bien élu et une majorité qui fait une chambre introuvable, de telle sorte qu'au fond, cette sorte de nostalgie à l'égard de la majorité parlementaire me laisse à penser qu'on n'aime pas le Parlement, qu'on n'aime pas la démocratie, et qu'au fond, parce qu'un Parlement introuvable, une majorité qui vote tout ce qu'on lui présente, ça ne sert à rien. On pourrait presque dire, Ça sert à quelques discussions, ça sert à quelques évocations d'une opposition qui dit ce qu'elle a à dire sans que ça ait de conséquences. Et là,
La faute à la Constitution, quand même, maître, quand vous regardez comment le pouvoir exécutif est puissant dans les textes de la 5e, on ne peut pas faire grand-chose.
Mais il est pas si puissant que ça s'il ne dispose pas, précisément, d'une majorité parlementaire. Oui, et ça, là, on est dans un choix. Et il me semble extraordinaire de vouloir plutôt conserver son identité que d'opter pour une coopération qui pourrait certes apparaître comme un ralliement. Le ralliement est-il une manière de se nier personnellement? Ou alors, faut-il parier sur l'avenir pour reconquérir le pouvoir au point de paralyser la France?
C'est des sujets de bac philo, là, Jean-Yves Le Borne. C'est des sujets de bac philo. Heureusement qu'on a William. Il y a plusieurs sujets sur la question de la démocratie et sur la question de la constitution du 5e. Moi, je pense justement que la constitution de la 5e est parfaitement adaptée à la situation actuelle. Quand on regarde la situation depuis 2008, on vit des crises de façon permanente.
Ah, mais je suis d'accord avec vous, parce que sinon, ça se transformerait en ce qu'on a vécu en 1946.
On est parfaitement d'accord. Sur le deuxième plan que vous évoquez, sur la question des ralliements des partis politiques, le problème, c'est que les députés ont été élus par quelque chose qui s'appelle le peuple. Donc, ils ont reçu un mandat du peuple pour faire quelque chose. Les députés de la NUPES, les députés des Républicains et les députés du Rassemblement national ont été élus pour s'opposer à Emmanuel Macron, avec des mandats qui sont différents, sur des convictions qui sont différentes. Mais ils ont été élus pour s'opposer à Emmanuel Macron. Donc le véritable responsable de cet enjeu, c'est Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que quand vous aviez des personnes qui ont voulu rallier la majorité présidentielle, il y a différentes personnalités qui ont dit « on est capable de travailler avec la majorité ». Qu'est-ce qu'a fait la majorité présidentielle à l'occasion des élections législatives? Ils ont mis un candidat LREM face à eux, ce qui les incitait, eux, à adopter des positions plus dures pour s'opposer au candidat d'Emmanuel Macron en vue de se démarquer et ensuite en vue d'une dissolution qui s'annonce quand même, en tout cas que chaque député a en tête. Est-ce que chacun pourra trahir ses électeurs en risque de perdre son poste dans 6 à 18 mois éventuellement? C'est la deuxième difficulté. Et enfin, la troisième point que je vois sur la question de ce que vous avez vu comme élection, moi je trouve que les Français ont été parfaitement cohérents. Les Français ont considéré qu'Emmanuel Macron était à la fois le candidat qui incarnait le mieux le renouvellement et celui qui avait le plus d'expérience et surtout, il permettait d'éviter Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Par contre, si par cas sur les deux fonctions de corps du roi d'Ernest Kantérowicz, il incarnait la fonction parfaite d'incarnation parce qu'il ne voulait pas être incarné par Marine Le Pen, il ne voulait pas être incarné par Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas d'accord sur sa deuxième fonction qui était celle de chef de l'exécutif et notamment sur son projet présidentiel. Parce qu'Emmanuel Macron, lors du débat présidentiel, n'a pas voulu mettre les thèmes sur la table, on ne savait pas quel est son projet exact. Au premier tour, il gouvernait plutôt au centre droit. Au deuxième tour, il parlait clairement à l'électorat insoumis. Donc, il y avait une incertitude sur son projet présidentiel. Et l'élection législative, notamment les Français, ont décidé d'exprimer « oui, nous faisons confiance au président ». Mais sous contrainte, à mesure qu'il écoute les autres formations politiques pour enrichir son projet. Et c'est le message qu'il doit entendre dans le discours qui se traduit par le discours de politique générale d'Elisabeth Borne.
Jean-Yves Le Borne.
D'abord, je pense que vous avez raison de dire qu'Emmanuel Macron n'a pas présenté un programme particulièrement détaillé et clair quand il a été candidat à la présidence de la République. Je crois que ces programmes-là n'ont pas de sens. Et il y avait dans votre propre discours, d'ailleurs, la réponse à ce propos, c'est que un président incarne le pays. Et au fond, c'est celui auquel on fait confiance pour faire face. Mais faire face à quoi? À ce qui va se présenter et qui est parfois totalement insusceptible d'être prévu. Alors, à partir de là, qu'il y ait des élections législatives beaucoup plus nuancées, d'autant plus nuancées qu'elles ne portent pas pour la même raison. Elles ne se manifestent pas pour le même motif. Il ne s'agit pas du choix d'une représentativité ou d'une représentation, il s'agit du choix d'une orientation politique. Là où je quitterai votre analyse, c'est lorsque vous dites que les élus de la NUPES ou du Rassemblement national ont été élus pour s'opposer à Emmanuel Macron. Je crois qu'ils ont été élus pour incarner ou pour manifester une certaine sensibilité politique, mais cette sensibilité politique, elle pourrait se reconnaître dans des initiatives qui viendraient du gouvernement et du Premier ministre d'Emmanuel Macron. On peut très bien imaginer que, et ce sera probablement le cas, qu'un minimum de lucidité fait qu'il doit aujourd'hui être pris un certain nombre de mesures d'ordre social. Et je vois mal comment les uns et les autres, quel que soit le mandat qu'ils ont reçu du peuple, pourraient s'y opposer. C'est en cela, je pense, que ce soutien ne serait pas une trahison des électeurs. Alors, je comprends que le soutien soit un peu au coup par coup, qu'il n'y ait pas une allégeance à un gouvernement et au président, parce que ça, c'est une manière presque de ne plus être dans la démocratie. Vous voyez, moi, je ne suis pas de ceux qui se désespèrent de cette Assemblée nationale multicolore. Je trouve que c'est bien la restauration du débat démocratique, à condition qu'on joue le jeu et qu'on vote lorsque l'on pense être en accord avec ce qui est proposé et pas seulement pour s'opposer et s'opposer pour être soi-même.
On a de toute façon eu les partis des extrêmes qui, il y a plusieurs mois déjà, nous disaient retour à la proportionnelle, retour à la proportionnelle. Là, d'une certaine manière, avec une majorité relative, c'est un peu le retour de la proportionnelle, même s'il ne s'appelle pas comme ça. Est-ce que vous pensez que, et je reprends mon trend d'Elisabeth Borne qui doit s'exprimer mercredi prochain, est-ce que vous pensez qu'il y a même peut-être une infime possibilité d'un vote de défiance ?
Je ne pense pas qu'elle soumettra à la question du vote de confiance parce qu'elle, vraisemblablement, elle sera minoritaire. Et ça pourrait les mettre en difficulté en vue des prochaines négociations dans la mesure où la position des partis politiques est plutôt claire, c'est-à-dire que NUPES votera contre, les Républicains voteront contre et le Rassemblement national voteront contre. Sur la question du vote de confiance, là où elle est plus tranquille, c'est sur la question de la motion de censure, soit sur la question du 49.3, soit sur l'article du 49-1, dans la mesure où elle se présenterait face au Parlement. Et à ce moment-là, en motion de censure, il n'y aura pas de majorité contre elle. Et c'est là, en fait, l'avantage qu'a le gouvernement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément la majorité pour eux au sein du Parlement. Il n'y a pas forcément de majorité coordonnée contre Elisabeth Borne, et c'est là où elle a un avantage sur ce point-là. Sur la question du discours de politique générale, Emmanuel Macron a à peu près deux orientations qui sont possibles. La première, c'est de faire ce que vous évoquez, ça veut dire une majorité de projets en fonction des différentes circonstances. Imaginons qu'on ait un texte plutôt sur les questions régaliennes et migratoires. Dans ce cas-là, il parlerait plutôt aux députés républicains à son moment national, qui seraient obligés en quelque sorte de voter son texte. Et si par cas, il présente des mesures de justice sociale, la NUPES, éventuellement Rassemblement national, voterait en faveur de ces mesures. La deuxième orientation qu'il a, c'est obliger en fait et prendre les Républicains devant le fait accompli. Les Républicains ont présenté un programme à travers celui de Valérie Pécresse, c'est le programme des élections législatives qui énonçait des mesures à peu près claires. Et même Valérie Pécresse avait dit qu'Emmanuel Macron s'inspirait de son programme. Si par cas Emmanuel Macron changeait de Premier ministre en mettant un Premier ministre qui est capable de parler à la droite et reprenait les mesures de la droite, c'est-à-dire sa campagne du premier tour de l'élection présidentielle, est-ce que les Républicains pourraient vraiment voter contre ces mesures-là? Donc vraisemblablement, ils voteraient en abstention et le fait qu'ils se mettent dans l'abstention mettrait le gouvernement en majorité absolue dans la mesure où les Républicains ne passeraient pas au vote. C'est la deuxième solution que je vois pour Emmanuel Macron. La question, c'est que pour l'instant, dans les différentes interviews qu'il donne ou les interviews données par Elisabeth Borne, on est plutôt sur, on ne choisit pas vraiment ce qu'on fait et on se place plutôt entre les deux. D'un côté, on parle un peu aux Républicains, de l'autre côté, on garde quand même la majorité de projets pour ne pas se fermer de porte. Et je pense que la question de la démocratie, la question de la gouvernance, c'est trancher, c'est choisir.
C'est assez amusant parce que vous avez dit il faudrait un Premier ministre qui arrive à parler à la droite. Ça veut dire qu'Elisabeth Borne, elle ne peut pas parler à la droite.
Moi, je pense qu'Elisabeth Borne, en fait, elle a des compétences quand Emmanuel Macron avait une majorité absolue. C'est-à-dire qu'elle avait toutes les compétences pour exercer
des
réformes.
Mais dans ce cas de figure, elle ne peut pas parler
à la droite. Pour moi, elle ne correspond pas à la temporalité. En fait, Elisabeth Borne servait pour négocier la réforme des retraites avec les syndicats, etc. Mmh. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'Elisabeth Borne, normalement, comme chef de la majorité, elle devait soutenir les candidats de La République En Marche et Renaissance aux élections législatives. Mmh. Et quand on regarde sa carte de déplacement, elle s'est concentrée uniquement sur sa circonscription du Calvados, ce que n'avait pas fait à l'époque Édouard Philippe il y a 5 ans. C'est le premier élément. Deuxième point, c'est qu'il faut construire des majorités de projet ou éventuellement séduire des députés. Est-ce qu'Elisabeth Borne a les capacités de séduction? Est-ce qu'elle connaît les députés républicains divers gauche élus contre la NUPES ou les députés du groupe indépendantiste et centriste? Je ne suis pas convaincu. Je pense qu'une personnalité autre, notamment plus politique et plus utile pour Emmanuel Macron.
Vous pensez à quelqu'un?
Il y a différentes personnalités, quelqu'un comme François Bayrou, notamment parce qu'il est bon pour ce
Il en rêve, profil. De toute façon.
Il en rêve. Et il y a d'autres personnalités comme Bruno Le Maire, éventuellement, qui correspondraient plus. Et si Emmanuel Macron voudrait vraiment aller beaucoup plus loin et préempter l'espace des Républicains, il pourrait nommer quelqu'un comme François Baroin.
Vous oubliez quand même une chose. Emmanuel, on n'en a pas quand même beaucoup parlé. Et ça a été d'une certaine manière la chute d'Édouard Philippe, c'est qu'il faut pour Emmanuel Macron un Premier ministre compétent, un Premier ministre en effet qui parle à la droite, mais un Premier ministre qui laisse toute la lumière au président de la République. Si vous prenez François Bayrou, il est quand même très très très, très visible.
Mais Emmanuel Macron, s'il s'expose comme ça, c'est-à-dire s'il choisit un Premier ministre dit transparent, dit technique, c'est lui qui s'exposera devant. Et moi j'ai même une théorie, si Emmanuel Macron passe en dessous de 30% de cote de popularité,
c'est pas encore le cas.
ce sera la fin du quinquennat et ce sera la fin du macronisme. Parce qu'au-delà de 30% de popularité, c'est-à-dire qu'il aura les deux tiers de la population contre lui, c'est-à-dire que par exemple sur ce type de plateau, eh ben, vous êtes tout seul contre deux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui vendra le macronisme. C'est à ce moment-là que la cote de défiance de Macron s'effondrera. On arrivera au moment des Gilets jaunes.
Jean-Yves Le Borne.
Je trouve intéressant que vous évoquiez l'idée d'un Premier ministre qui pourrait en quelque sorte obtenir un soutien que je qualifierais d'institutionnel de la droite. En réalité, vous êtes encore dans la démarche de la nostalgie de la majorité absolue. C'est-à-dire que cette perspective, c'est une majorité absolue grâce à l'apport...
Ce qui n'est pas passible d'une peine criminelle, d'ailleurs, d'être dans la nostalgie d'une majorité absolue.
Non, non, mais ce n'est pas un reproche, c'est un constat.
Non, parce que le pénaliste que vous êtes voudrait déjà mettre William Tay derrière les barreaux
pour
ça.
Non, je ne condamne pas William Tay, j'explicite ce qu'il y a comme idée derrière un discours qui est tout à fait cohérent et je me dis qu'il faudrait peut-être que nous nous réhabituions à un vrai débat où l'accord n'est pas acquis d'avance, où le Premier ministre, dans quelques démarches que ce soit, n'est pas dans la promenade de santé. Au fond, nous avons pris l'habitude avec la Ve République, le mode d'élection législative uninominale, majoritaire à deux tours, précisément en opposition à la proportionnelle, qu'on soit dans une situation où, au fond, le Parlement, c'était tranquille. C'était une sorte de dialogue paisible où on avait la majorité. Et je pense aussi qu'il y a dans votre discours une autre chose qui est intéressante. Sommes-nous définitivement dans une situation où le Premier ministre est un collaborateur, comme cela a été dit bien avant Emmanuel Macron, et où le pouvoir est exercé concrètement dans la quotidienneté par le chef de l'État, ce qui colle assez bien non seulement avec le quinquennat, mais avec la concomitance entre l'élection présidentielle et l'élection législative, où pouvons-nous revenir, c'est d'ailleurs la lettre de la Constitution, à l'idée d'un Premier ministre qui, effectivement, gouverne avec un président qui prend du recul. Il y a tellement longtemps que cet aspect des choses n'existe plus, soit dit entre nous, a-t-il vraiment jamais existé, ce président lointain, paisible et tranquille, un peu avec François Mitterrand.
Et un peu avec De Gaulle aussi.
Avec De Gaulle, déjà beaucoup moins. Hein, si ce n'est avec Pompidou, Premier ministre, pour les autres, c'était quand même des envoyés du Seigneur. Hein. Donc, de telle sorte qu'on est dans une situation où on n'est pas tout à fait capable d'accepter que le président exerce tous les pouvoirs et où on n'est pas capable non plus d'accepter que le Parlement soit un lieu de débat où un accord a priori ne peut pas être signé.
Un mot sur Éric Coquerel, quand même, qui se retrouve sous les projecteurs depuis qu'il a remporté l'élection pour la présidence de la Commission des Finances, William Tay.
Moi, il y a un truc qui me surprend sur ce genre d'affaires, c'est que souvent, quand on discute avec les gens, c'est que les gens disaient avant, on savait, et puis après, souvent, les affaires apparaissent après l'élection d'une personne. Ça apparaît sur le cas de Damien Abad, parce que j'avais entendu des affaires similaires sur Damien Abad. Également sur Éric Coquerel, j'avais entendu des rumeurs similaires. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, je n'en sais rien, c'est la justice d'en déterminer. La question d'Éric Coquerel, je pense, est encore plus compliquée que celle de Damien Abad. Dans la mesure où Damien Abad, le président de la République, avait à peu près revenu sur la doctrine Jospin, qui était « on ne revient pas dessus et un ministre mis en exécution n'est pas obligé de démissionner, c'est la justice de trancher » pour les questions des ministres. Sur la question d'Éric Coquerel, dans la mesure où la NUPES, LFI, a fait une coalition notamment avec les Verts, dont l'une des représentantes est Sandrine Rousseau, je ne vois pas comment Éric Coquerel, au vu des discours qui étaient portés notamment par la NUPES contre Damien Abad, s'ils veulent rester cohérents avec eux-mêmes, ils devraient demander...
Vous avez entendu Sandrine Rousseau, hein,
qui elle a changé d'avis du jour au lendemain.
Qui a dit que pour l'instant, il n'y avait pas de plainte, qu'il n'y avait pas de témoignage, jusqu'à présent...
Oui, mais elle avait dit contre Damien Abad avant qu'il y ait une plainte, qu'il démissionne.
Non, mais bon, voilà. Jean-Yves Le Borne.
Écoutez, moi, vous imaginez bien que la notion de présomption d'innocence, c'est une deuxième nature chez moi. Depuis un certain nombre de décennies, puisque les choses sont ainsi et que je ne débute pas tout à fait au barreau, j'ai vu s'épaissir l'ère du soupçon. Écrivez l'ère selon toutes les orthographes que vous voudrez. En réalité, il y a aujourd'hui une culpabilité potentielle qui surgit, vous le disiez d'ailleurs, qui surgit précisément au moment où il y a une opportunité politique pour couper les jarrets d'un individu. Voyez-vous, je vous dire que je suis dans l'enthousiasme à l'égard de M. Éric Coquerel, récemment élu à la présidence de la Commission des finances, ce serait peut-être mentir. De là à ce que l'on se serve de quoi que ce soit pour, en quelque sorte, le démonétiser, là, je trouve que c'est quelque chose d'un dangereux.
Je suis parfaitement d'accord avec vous sur la question de la présomption d'innocence. Je pense que ce qui est important aussi, on a parlé tout à l'heure du mandat donné au peuple, et la NUPES a à peu près donné une position qui était claire, notamment parce qu'on leur posait des questions sur le cas de Damien Abad. Ils ne peuvent pas dire « Damien Abad, sans plainte, doit démissionner du gouvernement et on peut maintenir Éric Coquerel sans plainte sur les mêmes fondements d'accusation. »
Ça, si c'est de la politique.
Sur la justice, vous avez raison. Mais à partir du moment où ils ont été élus par le peuple, ils ont reçu un mandat pour cela. Ils doivent rester sincères avec les convictions qu'ils ont portées durant la campagne des élections législatives. Moi, je dis juste qu'il faut rester cohérent. Si vous dites « le plus important, c'est la présomption d'innocence », dans ce cas-là, il est logique de ne pas démissionner, à moins que la justice ait démontré la culpabilité d'une personne. Mais si par cas, vous portez une conviction politique comme la NUPES qui dit « à chaque fois que quelqu'un est mis en accusation, il faut qu'il démissionne pour soutenir la cause des femmes », dans ce cas-là, ils doivent être cohérents avec eux-mêmes. Non pas qu'Éric Coquerel doit démissionner, mais que la NUPES doit demander la démission d'Éric Coquerel.
Oui, je comprends. Mais vous savez, selon le regard que l'on porte sur un homme, il y a un poids du soupçon qui n'est pas le même. Lorsque la sympathie, lorsque le cheminement commun fait de lui une sorte de frère, l'accusation devient un scandale, tandis que chez l'adversaire politique, il est probable qu'elle soit vraie.
Un mot pour terminer, et je commencerai par Jean-Yves Le Borgne. Ça a été cette semaine aussi la fin du procès des attentats du 13 novembre, qui était un procès hors norme, avec une condamnation très ferme pour Salah Abdeslam. Quels sont les enseignements de ce procès? Il y a beaucoup d'observateurs qui disent que ça sera écrit dans les livres d'histoire, qu'on a beaucoup appris de ce procès. Et ce matin, quand on en parlait avec les grandes voix d'Europe 1, c'est-à-dire Michel Cotta, Catherine Ney et Charles Villeneuve, il y avait quand même une chose qui ressortait, c'est que, par exemple, dans un procès comme celui de Nuremberg, on avait appris ce que c'était que le nazisme, la méthode, la façon dont tout cela avait été, planifié, organisé, et qu'en termes d'islamisme, on ne sait pas forcément ni sur l'État islamique, le fonctionnement, etc., et la méthode.
Deux questions différentes dans votre propos. La première, c'est qu'on retiendra à juste titre le caractère exemplaire de ce procès et qu'il faut, parce que je pense qu'on ne le fait pas assez, reconnaître la qualité de l'effort des magistrats qui ont conduit pendant 10 mois un procès de cette nature. On n'imagine pas ce que ça représente comme poids et comme charge de travail, surtout qu'il n'y a pas eu le moindre dérapage qui est extraordinaire. Alors, sur le second point, a-t-on appris quelque chose sur l'islamisme? Je dirais que, quelque part, c'est presque rassurant, le nazisme était une organisation épouvantable, rationnellement menée, tandis que l'islamisme est presque aussi épouvantable, mais fait d'une manière un peu amateuriste. On voit bien que certains attentats sont faits parce que deux illuminés se rencontrent sur un réseau social et commencent à échanger des idées aussi folles les unes que les autres. Quelque part, c'est un peu rassurant. Tant que l'ennemi, l'abomination, l'insupportable n'a pas le visage rationnel d'une organisation concertée, félicitons-nous.
William T.
Je suis d'accord avec Maître Le Borgne. La difficulté qu'on a en comparaison des deux, notamment entre le procès de Nuremberg et le procès mené contre Salah Abdeslam, c'est qu'ils diffèrent sur plusieurs points. C'est-à-dire que le régime nazi avait été vaincu lors du procès de Nuremberg, donc il est toujours plus facile de juger quelqu'un qui est vaincu, alors que là, pour l'instant, le terrorisme islamique prospère toujours dans certaines régions du monde, notamment l'Afrique subsaharienne et une partie du Moyen-Orient, dans la mesure où certaines organisations sont encore vivantes. C'est le premier élément. Le deuxième point que je vois, c'est la question du procès en fait qui est différente. C'est qu'au procès de Nuremberg, c'était arrivé au moment où on avait découvert les chambres à gaz et donc du coup, on s'était dit il ne faut plus jamais que ça arrive et on va transformer non pas le procès du personnel des nazis en tant que personne, mais en tant que représentant nazi et donc en les attaquant à ce titre-là. Là, on n'a pas fait le procès de Salah Abdeslam comme terroriste islamique provenant de Daesh et mené par Daesh, mais on l'a jugé en tant que personne et chaque personne était jugée comme individu et non pas comme institution, ce qui diffère en termes d'objet. Je pense que l'objet pour arriver sur ce point-là, c'était de leur faire le procès du terrorisme islamique pour que plus jamais ça arrive, pour comprendre les enjeux et pour qu'on arrive à ça.
Je crois que ce qui est essentiel aussi, c'est qu'à la brutalité de la barbarie a répondu l'élégance pondérée d'une dialectique judiciaire qui est l'image de la démocratie.
Merci à vous deux, merci Maître Le Borgne, merci à vous William T. Dans un instant, le journal de Sophie Tussaud. Juste après, n'oubliez pas que pendant toute la durée du Tour de France, on vous lâche à 19h40 avec Axel May pour le Club Tour et que Panorama est donc décalé à 19h15 aujourd'hui. Le boom du tourisme en plein air et notamment les campings. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
L'information dans un petit instant et puis le Club Tour bien sûr avec Axel May à 19h40 et nous dans Panorama on parlera des camping-cars et du tourisme en plein air, ça serait après votre journal. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
19h sur Europe 1. David contre Goliath, Alizé Cornet réalise un exploit à Wimbledon. La Française a sorti dès le troisième tour la numéro 1 mondiale, Iga Świątek.
Emmanuel Macron et Elisabeth Borne à l'épreuve du remaniement. Le nouveau gouvernement sera annoncé en début de semaine prochaine. Un exercice de funambule pour le président.
La colère des passagers à Roissy empêchés de prendre leur avion. Troisième jour de grève à l'aéroport parisien et beaucoup de craintes quant au bon déroulement des départs en vacances.
Après la pluie, le beau temps et surtout la fête. Après deux jours d'annulation en raison des orages, les festivaliers sont de retour aux Eurockéennes à Belfort, bien décidés à pleinement en profiter. Nous serons sur place.
Transition toute trouvée, quel est le temps, Valérie Darmon? La tendance. Eh bien, on aura la tendance en fin de journal. Merci Valérie Darmon. Et on commence donc par cet exploit absolument sublime, exploit d'une Française au tournoi de Wimbledon.
Oui, c'est l'exploit Alizé monumental. Alizé
Cornet élimine au troisième tour la numéro 1 mondiale Iga Świątek, Colin Abgral.
Oui, on vous parlait d'Harmonie Tan il y a une heure, mais Alizé Cornet a donc réalisé l'impensable cet après-midi en éliminant Iga Świątek en 2-7, 6-4, 6-2, 1h31 de jeu seulement. La numéro 1 mondiale qui paraissait tout bonnement invincible cette année. Elle restait sur 36 victoires d'affilée, record du 21e siècle. La Niçoise a donc réussi ce que 36 filles avant elle n'avaient pas pu faire. Et je vous propose de l'écouter justement chez le diffuseur beIN Sport après cette victoire qui lui rappelle quelques souvenirs.
Ça me rappelle le moment où j'ai battu Serena, au même moment exactement. Ce court est un porte-bonheur pour moi. Je suis une énorme fan d'Iga. Elle est tellement talentueuse. C'est une joueuse incroyable. Une très belle ambassadrice du tennis féminin. Je suis très honorée de l'avoir battue aujourd'hui.
Voilà, c'est la huitième fois dans l'histoire qu'une Française élimine la numéro 1 mondiale dans un tournoi du Grand Chelem. Et la dernière fois, vous l'avez compris, c'était déjà Alizé Cornet à Wimbledon en 2014 face à Serena Williams à 32 ans. Elle aussi va peut-être battre un record en septembre. Elle dispute actuellement son 62e tournoi du Grand Chelem d'affilée. Et donc, elle battra ce record en septembre à l'US Open. C'est une journée magnifique pour les Françaises. Et pour reprendre les mots d'Alizé Cornet, je suis comme le bon vin. Plus je vieillis, plus je m'améliore.
Alizé qui met fin à 37 victoires consécutives de Iga Świątek. C'est quand même absolument hallucinant, hein Sophie?
Oui, il y a une autre Française qui a brillé aujourd'hui à Wimbledon, Harmonie Tan, 115e mondiale, vainqueur de Serena Williams au premier tour. Elle s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle a dominé la Britannique Cathy Boulter, 6-1, 6-1. Merci Colin Agbral.
19h03, c'est un week-end studieux pour l'exécutif avant l'annonce du remaniement à venir cette semaine.
Emmanuel Macron s'est longuement entretenu hier avec Elisabeth Borne. La première ministre lui a présenté les conclusions de ses consultations avec les autres partis politiques. Prochaine rencontre entre le président et sa première ministre lundi ou mardi, juste avant le discours de politique générale de la chef du gouvernement. Ce remaniement, c'est à qui tout double pour Emmanuel Macron, Louis de Raguenel?
Oui, d'autant que cette période de flottement a trop duré, comme le déplore ce ministre important. Ça fait depuis février, à cause de la présidentielle, qu'on n'a pas d'orientation claire. C'est du jamais vu d'être à l'arrêt autant de temps. Après ces plus de 4 mois de faux plats ponctués d'élections présidentielles puis législatives, Emmanuel Macron veut croire que son deuxième quinquennat n'est pas mort-né. Alors ce week-end, le président Elisabeth Borne ou encore Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, ainsi que d'autres ministres issus de la gauche, enchaînent les appels téléphoniques pour tenter de convaincre des députés des oppositions réputé Macron-compatible, soit de voter la confiance, soit de s'abstenir mercredi prochain à l'Assemblée nationale pour obtenir la confiance symbolique, à défaut d'être politique, de la nouvelle équipe gouvernementale dont l'affiche doit être dévoilée en début de semaine. La prochaine épreuve du feu pour le gouvernement, le projet de loi pouvoir d'achat, pour savoir si un compromis existe sur ce texte et donc possiblement sur d'autres. Mais chaque groupe à l'Assemblée a des idées très arrêtées sur le sujet. Le Rassemblement national veut par exemple baisser la TVA de certains produits, là où la gauche demande un SMIC à 1500 euros. Deux propositions que rejette pour le moment le président. Après avoir cherché à gagner du temps, repousser les échéances, les dés sont presque jetés pour l'exécutif. Emmanuel Macron saura la semaine prochaine si sa stratégie a fonctionné.
Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1.
Et cette question à présent, y a-t-il une menace sur les départs en vacances ?
Beaucoup d'inquiétudes, effectivement, à une semaine de la première grande vague de départs, notamment dans les aéroports. À Paris-Roissy, c'est le troisième jour de grève. Les pompiers ont cessé de travailler jeudi pour défendre leur salaire et protester contre leurs conditions de travail. Une partie des pistes a dû être fermée pour des raisons de sécurité. 150 vols ont été à nouveau annulés entre 7h et 14h. Aujourd'hui, soit un vol sur cinq, ce qui provoque une attente interminable pour les passagers impactés.
Tirer une tête de 3 km, ce n'est pas de leur faute une fois de plus. Ils sont derrière le comptoir, ils subissent le client. Mais effectivement, dans l'absolu, c'est plus les personnes qui font grève à ce moment-là, qui font ça en sachant pertinemment qu'ils vont faire suer tout le monde, quoi. On n'est pas prévenu. On le sait une fois qu'on arrive devant le guichet. Parce que rien qu'on arrive, ce n'est même pas affiché sur l'écran.
Fatigué de tout ça, ouais. D'être resté trop longtemps dans l'aéroport, là, ça commence à être un peu long.
Depuis 8h du matin, on est là, quoi. Jusqu'à 20h45, on sera là.
Ras-le-bol, parce que c'est de l'attente, et puis c'est du parking à payer en supplément. On espère ne pas dormir à l'aéroport, ce serait sympa. On ne peut pas faire autre chose que d'être résigné, de toute manière, on n'a pas d'autre choix. Je ne peux pas prendre un pilote en otage en lui disant « on décolle tout de suite », ce n'est pas possible.
Des témoignages recueillis par Arthur Pereira pour Europe 1. À noter que les syndicats ont d'ores et déjà déposé un nouveau préavis de grève pour samedi et dimanche prochain, les 9 et 10 juillet, premier week-end de départ en vacances d'été. Outre la grève, voyager en avion cet été va se révéler compliqué en raison de la forte inflation. Les prix des billets se sont envolés ces dernières semaines et ils atteignent un pic en cette période de vacances, même pour les destinations en Europe, qui sont pourtant généralement plus accessibles. Confrontés à cette hausse des prix, les voyageurs petit budget s'organisent différemment. Wilfried de Villers.
Quand elle commence à organiser son voyage au Portugal, Juliette n'en revient pas. Plus de 300 euros l'aller-retour 3 mois avant le départ. Avec son budget d'étudiante, elle ne peut pas se le permettre. Alors, elle trouve un plan B.
La seule alternative qu'on ait trouvée, c'était de partir du Luxembourg. Et donc, on a pris un bus, en effet, pour aller au Luxembourg et après prendre notre avion.
Près de 5 heures de bus, mais de sacrées économies.
On a eu 40 euros aller-retour en avion et je crois 20 euros de bus. Donc, beaucoup moins que les 300 euros au départ de Paris.
D'autres ont tout simplement renoncé à prendre l'avion cet été. C'est le cas de Baptiste, jeune diplômé. Il rêvait d'un voyage au Kenya pour fêter la fin de ses études.
Quand je me suis penché sur les billets d'avion, ça m'a bien refroidi. Et à plus de 800 euros par personne, ça fait vraiment exploser le budget. Du coup, voilà, j'ai dû renoncer à mon idée d'aller au Kenya. Je partirai peut-être, du coup, mais moins loin et moins cher.
Les destinations européennes subissent elles aussi une forte inflation. Selon la Direction générale de l'aviation civile, les prix des vols au départ de la France ont augmenté de plus de 19% en mai par rapport à la même période en 2021.
Wilfried de Villers, les entreprises souffrent également, elles, de l'augmentation des coûts de l'énergie. Le gouvernement a prévu un plan de résilience pour les soutenir. Les conditions d'éligibilité ont été dévoilées aujourd'hui. Pour bénéficier de cette aide d'urgence, les entreprises devront entre autres avoir effectué des achats de gaz et d'électricité atteignant au moins 3% de leur chiffre d'affaires en 2021 et elles pourront déposer leur demande d'aide à compter de ce lundi le 4 juillet.
Plusieurs craintes pèsent donc sur les départs en vacances, les mouvements sociaux, l'inflation, mais également le Covid.
La 7e vague de Covid-19 en France prend de l'ampleur. Plus de 125 000 nouveaux cas de contamination ont été détectés hier en 24 heures. Le nombre des hospitalisations est également en hausse. Le taux d'incidence a augmenté de 53% en une semaine. Une mission flash a été déclenchée par le gouvernement pour désengorger les urgences. Pour Arnaud Chiche, médecin urgentiste et fondateur du collectif Santé en danger, c'est un premier pas.
La situation du système de santé en France est extrêmement préoccupante, avec un nombre très important de fermetures de services d'urgence alors qu'on n'était pas en vague Covid, il faut faire très 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 attention à ce que les choses ne s'aggravent pas. Il est bien évident que si, en dehors d'une vague Covid, le système de santé nous paraît fragile au point de mettre en place une mission flash, si la situation devait s'aggraver avec en plus un afflux de patients nécessitant une hospitalisation, j'ai du mal à imaginer comment ça pourrait bien se passer. Non, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on fasse très attention avec cette nouvelle vague. En faisant des recommandations fortes de remettre des masques dans les endroits où c'est périlleux, ou dans des endroits mal ventilés, dans des lieux clos, ça peut suffire et pour faire en sorte de freiner cette vague.
Arnaud Chiche avec Nina Droff pour Europe 1. Une nouvelle manifestation en France aujourd'hui pour la défense du droit à l'avortement. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes en réaction à la décision de la Cour suprême la semaine dernière de révoquer le droit à l'IVG, mais également pour l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française. En Ukraine, la confusion concernant la situation à Lysychansk, que l'armée ukrainienne affirme que les combats font rage dans cette ville de l'Est du pays, mais qu'elle n'est pas encerclée contrairement à ce qu'ont annoncé les séparatistes. L'Ukraine dénonce une terreur russe délibérée après les récentes frappes meurtrières et réclame à nouveau aux Occidentaux des systèmes antimissiles.
Ouais, la guerre en Ukraine qui a provoqué cette année une crise des réfugiés.
Oui, crise qui s'ajoute à celle déjà existante des migrants en provenance de Syrie, d'Afghanistan ou d'Afrique qui tentent de rejoindre le continent européen, souvent sur des embarcations de fortune en traversant la mer Égée via la Turquie. En première ligne, la Grèce, porte d'entrée de l'Europe. Cette semaine, elle a accusé Ankara d'avoir tenté d'envoyer plus de 1000 migrants en 3 jours sur les îles grecques. Athènes dit avoir repoussé à temps les embarcations de migrants pour de nombreuses ONG. Cela s'apparente à des refoulements, une pratique illégale que dénonce la Turquie. Notre correspondant Rémi Trio a embarqué avec les gardes-côtes turcs qui prennent en charge les migrants refoulés au large de l'île de Samos.
Entre les côtes turques et l'île grecque de Samos, il n'y a qu'une poignée de kilomètres scrutés par les gardes-côtes des deux pays. Cette nuit, Mohamed a essayé de rejoindre l'Europe sur un petit Zodiac avec 7 autres Palestiniens. Mais alors qu'elle se trouvait dans les eaux territoriales grecques, leur embarcation a été refoulée par une patrouille.
Les Grecs nous ont frappés, ils ont pris nos téléphones et tout notre argent. Ils nous ont dit que nous étions des singes, pas des humains. Mais où est l'humanité ?
D'autres migrants montent à bord, interceptés par les autorités turques. Des familles congolaises avec des enfants. Lala, la trentaine, avait très peur d'avoir affaire aux Grecs quand la vedette des gardes-côtes est arrivée.
On nous a raconté qu'ils vous chassent, ils vous mettent dans de petits radeaux sans moteur, ils vous laissent partir.
Selon Ankara, près de 9000 migrants ont été ainsi refoulés par la Grèce depuis le début de l'année. Au large de Samos, Rémi Trio, Europe 1.
Du nouveau dans l'enquête sur l'affaire Carlos Ghosn, 2 magistrats et 1 enquêteur français sont arrivés aujourd'hui à Tokyo. Ils vont y mener des interrogatoires pour en savoir plus sur le présumé schéma de blanchiment en bande organisée mis en place par l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, qui se trouve au Liban et qui est toujours visé par un mandat d'arrêt de la justice française.
Allez, direction Belfort à présent, où les Eurockéennes ont pu reprendre aujourd'hui.
Les 2 premières journées de concert ont été annulées à cause des orages et des dégâts qu'ils ont occasionné. Après une journée de nettoyage, les festivités ont donc pu reprendre à 16h pour le plus grand bonheur des festivaliers dont vous faites partie, Tatiana Gezelman.
Et oui, vous l'entendez, ils sont bien motivés à faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Léna, par exemple, était là à l'ouverture des grilles à 16h.
Enfin, l'ambiance du camping, c'est cool, mais là, on a surtout envie de voir des groupes de musique parce que de base, on vient au festival pour ça quand même.
Il faut dire que cette Strasbourgeoise de 27 ans est arrivée jeudi matin à 8h. Sa copine, Valeska, a elle renoncé à venir hier. Mais du coup, pour compenser, elle fera finalement aussi Muse demain.
Un jour, c'est pas assez. J'ai hésité de rejoindre les gens au camping, puisqu'il y avait une énorme ambiance. Mais on est très contents d'être là aujourd'hui et de rattraper tout ça.
Même si un nouveau petit coup dur est tombé tout à l'heure, le groupe Fools ne sera finalement pas présent ce soir. Mais pas de quoi ôter son sourire à Kem Lalo, le programmateur du festival.
Super content que la journée se passe, même si on a eu encore quelques petits soucis, parce que bah, ça continue, quoi, tu vois. Mais au moins, on va avoir une journée quasiment complète. Et il fait beau, donc là, on peut dire que ça y est, les Eurockéennes sont enfin partis.
Et je peux vous dire qu'ici, tout le monde a sorti son plus beau déguisement et ses plus belles paillettes. Et d'ailleurs, j'ai moi-même eu droit à mon petit passage au stand de maquillage pour briller de 1000 feux toute la nuit.
Eh bien, bon festival, Tatiana Gezelman.
Allez, on passe au sport. On a évoqué le tennis en début de journal, on va maintenant parler du Tour de France.
Le Néerlandais Fabio Jakobsen de l'équipe Quick-Step remporte la deuxième étape entre Roskilde et Nieuwborg au Danemark, étape sur 202,2 km. Et le maillot jaune est désormais sur les épaules du Belge Wout Van Aert de l'équipe Jumbo. Axel May, grosse ambiance à l'arrivée de cette deuxième étape. En revanche, on était loin du spectacle sportif attendu.
Oui, pour reprendre les mots d'un directeur sportif, l'étape faisait peur à tout le monde, mais elle a accouché d'une souris. Vous savez, il y avait un premier pont suspendu dans le style du pont de San Francisco, version béton gris, et puis un second pont plus près de l'eau, lui, 18 km d'ouvrage d'art au total, juste avant l'arrivée à Nieuwborg, au cœur du Danemark. Le vent devait créer des bordures, des cassures, faire exploser le peloton. Encore fallait-il que ce vent souffle de côté, si possible de côté arrière. Là, ce fut un vent de face qui a plutôt ralenti les coureurs. Alors, même si la nervosité chez les coureurs a créé deux chutes, juste avant le pont et ensuite dans l'emballage final, avec la victoire de Jakobsen, vous l'avez dit, le Néerlandais, c'est sa 11e de l'année et la 50e depuis que la formation de Koninck est sur le Tour de France. 50 victoires pour cette formation, celle du grand absent français, cette formation sur la grande boucle, Julian Alaphilippe, qui est resté chez lui. Alors, Van Aert et maillot jaune à la place d'Yves Lampaert, un autre Belge. Et puis, c'est un Danois qui a déchaîné les applaudissements de la foule. Le Danois Magnus Cort Nielsen qui revêt le premier maillot à poids de ce Tour de France. Écoutez. Voilà, Magnus, la foule l'applaudissait comme s'il avait ou revêtu le maillot jaune ou gagné l'étape. Premier donc maillot à poids de ce Tour de France. Demain, la troisième et dernière étape au Danemark devrait se terminer, elle aussi, au sprint.
Axel May qui nous fait vivre sur Europe 1 avec Martin Lange, cette 109e édition du Tour de France.
Ouais, le Tour de France, il en sera question dans Europe 1 Sport, mais pas que. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Oui, Tour de France, double dose de Tour de France. On va poursuivre le Club Tour jusqu'à 20h30 ce soir, avec notamment les montagnes danoises, hein, puisque vous avez vu, il y a un maillot à poids au Danemark. Je ne savais pas qu'il y avait des montagnes. Et si, c'est possible. Avec le Tour de France, tout est possible. Dans trêve de plaisanterie, on sera évidemment sur la ligne d'arrivée avec Axel et avec Martin Lange. On parlera foot évidemment aussi. Parce qu'un nouvel entraîneur arrive à l'Olympique de Marseille, c'est allé très vite, hein, Sampaoli qui s'en va, et c'est Igor Tudor, vous ne le connaissez pas, c'est un ancien international croate, il arrive d'Italie, on va faire connaissance avec sa personnalité, avec son style de jeu, débat Paris Saint-Germain, qui pourrait laisser partir son vice-capitaine et symbole de l'équipe Prestel Kimpembe, champion du monde 2018, on fera connaissance aussi avec Vitinha, qui est un jeune international portugais, première recrue, plus de 40 millions d'euros, et puis on parlera de Monaco, et ça c'est un sujet assez original. Figurez-vous que la réserve de Monaco, l'équipe réserve, va aller jouer la saison prochaine, non pas traditionnellement dans un championnat français classique, National 3, mais dans un championnat privé en Angleterre.
Pourquoi ?
Parce que c'est comme ça, parce que c'est peut-être que c'est le début d'une révolution pour les jeunes joueurs, peut-être d'accord, le début des ligues fermées en Europe. On le craint, on en parle depuis quelques temps, les Super Ligues. Monaco est peut-être en train de donner l'exemple, on va en parler ce soir.
Ils vont être bilingues maintenant, nos footballeurs. Merci beaucoup Jean-François Pérez.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure,
20h. Et puis en rugby, premier test match de l'été pour l'équipe de France. Les Bleus ont battu le Japon 42-23, 9e victoire consécutive pour le 15 de France. Autre résultat de ces tests match, l'Australie qui a battu l'Angleterre 30-28. Est-ce que j'ai le temps pour la Formule 1? Oui, un petit mot. Allez, l'Espagnol Carlos Sainz a décroché la première pole position de sa carrière. Le pilote Ferrari partira donc demain premier lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.
Voilà, et puis on rappelle quand même cet exploit, hein, Alizé Cornet. Qui bat dès le troisième tour de Wimbledon la numéro 1 mondiale, Iga Świątek, 6-4, 6-2. Merci, c'était le journal de Sophie Tussaud. La météo, Valérie Darmon, comment ça se passe ?
Tendance météo bonne sur quasiment tout l'Hexagone pour toute la semaine à venir et même au-delà. Il va faire chaud, complètement classiquement, beaucoup dans le sud, beaucoup moins au nord. En bord de Manche, d'ailleurs, les brises de mer vont rafraîchir les plages avec de belles éclaircies tout de même dans votre ciel. Au sud de la Loire, quelques orages sont à prévoir, qui vont commencer dès ce dimanche, surtout à proximité des reliefs. La Provence et la basse vallée du Rhône souffrent de la chaleur. très très forte chaleur de dimanche à mardi avec des pointes à 38 du côté de Nîmes. À partir de mercredi, la chaleur qui diminue un petit peu sous l'effet du Mistral et de la tramontane qui vont se lever. En bord de Manche, il fera beau, modérément chaud, en particulier en Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie, tandis que quelques passages nuageux vont circuler sur la Côte d'Opale et la mer du Nord. L'arc atlantique est le mieux loti avec du soleil, du ciel bleu et de la chaleur tempérée.
Merci Valérie Darmon. Dans un instant, le boom des vacances en plein air. Sortez votre tente et peut-être aussi votre camping-car. A tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
Les débats de panorama décalés puisque nous allons rendre l'antenne à 19h40 tout à l'heure pour le Club Tour avec Axel May. Et cette question, puisqu'il en a été question également dans le journal des vacances, que ce soit dans le journal de 19h ou le journal de 18h, on voit qu'effectivement ces vacances sont de plus en plus chères. Ne serait-ce que par l'essence qui coûte de plus en plus cher, ne serait-ce que par l'augmentation générale des prix, l'inflation qui tourne autour de 5,8 actuellement, ce qui est quand même beaucoup. On en parle avec Jean-Pierre Masse, le président des entreprises de voyage, avec Jean-Michel Gallès, rédacteur en chef de Camping Car Magazine, et Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale des hôtelleries de plein air. D'abord, Jean-Pierre Masse, bonsoir, comment allez-vous ?
Bonsoir, très bien. Ça irait mieux s'il n'y avait pas de difficultés dans les aéroports.
Justement, alors, vous faites bien de me le rappeler. Sur les aéroports, une première petite réaction là-dessus.
Aujourd'hui, on a des grèves qui créent beaucoup de problèmes à Roissy notamment. Et il y aura des problèmes tout l'été, non pas en raison des grèves, mais en raison du manque de personnel. Pour traiter les bagages, pour enregistrer le personnel de police à la PAF. Il manque également du personnel pour les contrôles de son surtout d'entrée du territoire. Et on se concentre à un été très difficile.
Bon, alors, sur notre sujet du jour, c'est-à-dire le boom des vacances en plein air, est-ce qu'on constate aussi, amusement, on se dit que tiens, on va essayer. Ou est-ce qu'il y a aussi des gens qui se disent les vacances ça devient vraiment trop cher, tant pis, tiens, on va essayer le camping et puis si ça se trouve on va avoir des bonnes surprises.
Oui, sans aucun doute, pour deux raisons, la raison budgétaire que vous avez évoquée, le fait est, pour trois raisons même, le fait que l'image de l'hôtellerie du plein air, du camping, qui est parfois pas une très très bonne image, ne correspond pas à la réalité alors que les prestations sont souvent de très grande qualité. Et puis également parce que il y a toujours ce souvenir réactualisé de la pandémie, du Covid, et on a l'impression que plus on est dans un espace ouvert et large, moins on risque de promiscuité et de risque de contagion. Donc le camping aura beaucoup de succès cet été.
Alors, parole à Nicolas Daillot, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Président de la Fédération nationale des hôtelleries de plein air, est-ce que vous, cette année particulièrement, vous avez plus de demandes que les autres années ?
Alors oui, l'année s'annonce très très bonne. On a mis en place un nouvel observatoire national de l'hôtellerie de plein air avec Atout France et ADN Tourisme il y a quelques jours. Et les chiffres sont directement puisés dans les logiciels de réservation des campings, donc ce sont des chiffres objectifs. Et ils aboutissent au constat suivant, fin juin 2022, donc il y a encore hier ou avant-hier, on a enregistré 21% de réservations en plus à date par rapport à juin 2019, qui était pourtant notre année record. Donc on va normalement vivre un été exceptionnel, aussi bien en hébergement locatif, qui était déjà très réservé depuis le premier trimestre et depuis le deuxième trimestre, mais également en emplacement nu, ce que c'est qu'une thématique camping-car également. Les emplacements nus, alors qui sont évidemment météo-sensibles, mais qui sont plus encore que les hébergements locatifs directement liés à la problématique de pouvoir d'achat, qui s'apprêtent eux aussi à faire un carton, parce qu'ils correspondent aux attentes des familles qui veulent maîtriser leur budget, bien entendu.
Jean-Michel Gallès, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de Camping Car Magazine. Vous venez d'entendre Nicolas Daillot qui voit une augmentation également des campings avec juste l'emplacement où on gare son camping-car. Est-ce que cette année, par rapport aux autres années, est une année de boom du camping-car ?
Oh ben, le boom du camping-car, il a commencé depuis pas mal de temps. Et effectivement, depuis au moins une bonne dizaine d'années. Mm-hmm. Mais c'est vrai que la crise du Covid a amplifié ce boom, tout simplement pour la simple raison que le camping-car, c'est une bulle sanitaire que l'on pratique en famille. Donc
Donc si on attrape le Covid, c'est à cause de sa famille ou les amis qu'on transporte.
Absolument, tout simplement.
Et alors du coup, quand vous voyez qu'effectivement, il y a les campings, comme l'a dit Nicolas Daillot, mettent de plus en plus de place pour les camping-cars, c'est quelque chose de positif.
Absolument, oui, tout à fait. De toute manière, tout ce qui concerne le stationnement des camping-cars, c'est quelque chose de positif. À partir du moment où il y a plus de stationnement, forcément, alors, ce sera intéressant pour les camping-caristes.
On y viendra un petit peu plus tard, on précisera là-dessus. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des communes qui bannissent le camping-car, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on va arriver... Camping-car, c'est la liberté, on n'a pas besoin de réserver une nuit d'hôtel, on n'a pas besoin de ceci. On arrive dans une station balnéaire et puis finalement, on vous refourgue à 5 km plus loin parce que bah, vous ne pouvez pas garer, entre guillemets, votre camping-car sur le littoral.
C'est effectivement un des problèmes, surtout en été, les communes en tension, donc les grandes communes, les grandes stations balnéaires, effectivement, ont un petit peu tendance à vouloir écarter les camping-cars. Bah pour une raison esthétique, pour une raison pratique, parce que ce sont des véhicules imposants. Donc, à partir du moment où vous avez beaucoup de circulation, si vous avez en plus des camping-cars dans ce flot de circulation, forcément, ça va créer des problèmes. Mais malgré tout, en France, on est quand même assez bien loti, puisqu'on recense, avec les campings, 5000 endroits pour stationner. En France, donc, c'est quelque chose. Par rapport aux autres pays européens, on est quand même très, très bien lotis.
Nicolas Daillot, Jean-Michel Gallès et Jean-Pierre Mas sont avec nous pour ce débat du tourisme en plein air qui connaît un vrai boom cette année. On en parle dans un petit instant. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Les vacances sous la tente, la solution pour des vacances réussies et pas chères. On en parle avec le président de la Fédération nationale des hôtelleries de plein air, Nicolas Daillot, avec le rédacteur en chef de Camping Car Magazine, Jean-Michel Gallès, et Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage. Jean-Pierre Mas, d'autres solutions que le camping pour des vacances pas chères?
Ah ben, oui, le camping n'est pas la solution unique, loin de là. Il y a tout le locatif qui est très, très accessible, surtout si l'on est en famille. Pour une personne seule, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, il y a des destinations qui sont en matière de prix très compétitives et parfois moins chères que la France, malgré les transports aériens. Je pense à la Tunisie. Il est plus économique de passer 15 jours dans un hôtel club au bord de la mer en Tunisie que de passer 15 jours en France dans certaines régions. En sachant que les repas sont inclus dans l'hôtel club. Donc, il y a d'autres solutions économiques que le camping ou que le camping-car, mais le camping en est une.
Mais, pardonnez-moi cette question, vous parlez de la Tunisie, est-ce que, au point de vue sécurité, tout va bien là-bas?
Au point de vue sécurité des personnes, il n'y a absolument aucun problème, et il y a maintenant très, très longtemps, une décennie quasiment, qu'il n'y a pas eu de problème concernant les personnes. Il n'y a pas d'attentat en Tunisie, pour parler clairement. Hein. Mmh. Et au point de vue de la sécurité sanitaire, après quelques hésitations, il y a cela un an et demi, la sécurité a maintenant des protocoles sanitaires qui sont extrêmement solides, extrêmement rigoureux, et on peut y voyager sans aucune difficulté.
Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale des hôtelleries de plein air. Plein air, ça regroupe quoi exactement?
Ah ben, plein air, c'est l'autre mot pour camping. Nous ne représentons que les campings, sachant qu'il y a plusieurs formes de camping. Il y a ce qu'on appelle l'air naturel, une espèce de camping à la ferme, si vous voulez. Mais la grande partie de nos adhérents et des exploitants français, ce sont des campings, c'est-à-dire des campings aménagés, pouvant accueillir minimum 20 campeurs ou 6 emplacements. Par contre, il y a une variété extrêmement importante de types de campings différents. Il y a les campings clubs, évidemment, ceux qui génèrent le plus de... ce qui réalise la plus grande fréquentation, mais il y a une majorité aussi de petits établissements de moins de 100 emplacements, donc des petits campings familiaux qui sont très prisés par les Français et les étrangers. Et puis après, vous avez tout un tas de campings thématiques, les campings évidemment excentres équestres, les campings animés, il y a également les campings naturistes. Nous sommes le leader mondial du naturisme en France, c'est nous qui accueillons le plus de naturistes. On a des établissements extrêmement importants dans des endroits très nature sur le territoire.
Ouais.
Donc derrière le vocable camping, les réalités sont très variées et la transformation de l'activité étant encore en cours, puisque les campings ont beaucoup évolué au cours des 20 dernières années, et du fait de la structuration de notre offre, du fait de l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, qui modifient encore une fois et repositionnent les campings, eh bien c'est extrêmement vivant et comment dirais-je, efficace dans les propositions nouvelles que nous faisons aux clients.
Dites-moi, les naturistes, c'est quand même infinitésimal, non, dans votre proportion?
C'est 500 établissements sur 7600.
Bon, bah ça donne
une
idée.
Et ce sont des établissements, et les plus grands établissements de France sont naturistes.
Et les
que
plus
ce soit dans le Médoc ou au Cap d'Agde, par exemple.
Bon, bah écoutez, bah c'est une information. Il y a des camping-cars pour naturistes? Non, ça n'existe pas, ça.
Il y a des camping-caristes qui sont des naturistes, effectivement, oui, bien
bon,
sûr.
Bah écoutez, voilà.
J'ignore la proportion, en revanche.
Merci quand même. Alors, non, mais Nicolas Daillot, vous savez, il y a cette phrase, on va quand même pas aller au camping. Est-ce que ça vous énerve? Et est-ce que vous avez un contre-exemple pour dire, bah écoutez, voilà, moi je vais vous montrer le palace du camping et vous allez être surpris?
Mais tout dépend ce qu'on cherche dans le camping. Mais à ceux qui disent ça, on peut opposer les chiffres. L'année dernière, entre mai et septembre, les campings français ont réalisé à eux seuls 51% de la fréquentation totale de tous les hébergements collectifs français, par exemple. Mmh. C'est 23 millions de personnes qui, chaque année, fréquentent les campings français en été et au printemps. Il n'y a pas d'équivalent. C'est une spécialité française. Il y a des millions de personnes qui y sont passionnées. Et puis, notre secteur d'activité a beaucoup évolué au cours des dernières années par les nouvelles offres qu'évoquait Jean-Pierre, d'ailleurs, tout à l'heure, que nous proposons maintenant et que nous ne proposions pas il y a 30 ans. C'est vrai que dans les années 60, l'eau chaude était facultative.
Ouais.
Mais ce temps-là et la préhistoire.
Oui.
Et pour ceux qui n'ont pas mis les pieds dans un camping depuis des années, je les invite à tenter l'expérience, ils ne seront pas déçus. Et d'ailleurs, vous voyez, en 2012, par rapport à 2022, on accueillait 3 millions de personnes de moins qu'aujourd'hui. Donc d'année en année, de nouveaux campeurs, de nouveaux touristes découvrent notre offre et trouvent chaussures à leurs pieds, puisque entre un grand établissement du Gros du Roi ou un camping très nature dans le Gers ou un camping à la montagne, ce sont des expériences qui n'ont rien à voir, selon que vous soyez en mobil-home, en roulotte, en cabane dans les arbres ou en tente, il y a toujours de très bonnes vacances à passer en camping.
Nicolas Daillot, puisqu'on parle de prix, le minimum du minimum du minimum, le prix vraiment, le prix d'attaque du camping, c'est combien ?
Alors c'est encore une fois très variable, mais je vais répondre directement. C'est très variable selon que vous prenez évidemment un camping 1 étoile ou 5 étoiles. Le rapport qualité-prix est toujours excellent, mais tout dépend du niveau de gamme que vous choisissez. Néanmoins, le prix le plus performant qui soit, c'est un emplacement tente. Vous êtes autour d'une vingtaine d'euros pour un couple, même au cœur de la saison, si vous ne prenez pas l'électricité. Si vous prenez l'électricité, vous êtes à 25 euros la nuit. C'est un prix défiant toute concurrence.
Prix défiant toute concurrence. Jean-Michel Gallès, je vois vos... Je crois qu'il y a du monde là chez Nicolas Daillot. c'est les vacances. Je vois vos camping-car magazines. Il y a aussi un magazine qui est Planète Van, qui est vraiment spécialisé sur le van, parce qu'il y a les gros et les petits, hein,
oui.
C'est ça.
Oui, oui.
Donc il y a deux sortes de camping-cars. Il y a ceux-là. Alors ça, c'est des grands. Voilà, c'est une sorte de. C'est base fourgon, j'allais dire, hein, voire presque petit camion.
C'est ce qu'on appelle des cellules, en fait, des camping-cars à cellules.
Et puis le van, bah voilà, c'est comme on voit par exemple des vans, des camionnettes de livraison qui sont du coup en version camping-car. Qu'est-ce qui se vend plus? Et qu'est-ce que les Français achètent?
Alors actuellement, ce qui se vend le plus, c'est justement le van et le fourgon aménagé.
Ouais. Ça commence à quel prix?
Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que les prix, comme dans l'automobile, comme un peu partout, les prix ont considérablement augmenté.
Ouais.
Mais en entrée de gamme, il faut compter au minimum 55 000 euros aujourd'hui.
Ouais. Aujourd'hui, ça veut dire, il y a deux ans, ça coûtait combien?
Il y a deux ans, on était plutôt à 45 000.
Ouais. 10 000 euros de plus,
rien
que sur la dernière période.
Ouais, ouais,
ouais.
Ouais.
Et là, pour 50 000 euros, on a un camping-car avec un lit, une cuisine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Alors, dans un van, il y a vraiment le strict minimum, c'est-à-dire que vous avez un lit... Enfin, ou deux lits si vous avez ce qu'on appelle un toit escamotable sous lequel vous trouvez un lit. Vous avez une cuisine et c'est tout. Mais sinon, dans un fourgon aménagé, c'est un vrai camping-car avec un lit, une cuisine, une salle d'eau,
Une
douche, des toilettes chimiques, mais des toilettes.
Alors moi, un jour, j'ai vu un camping-car qui s'ouvrait derrière, il y a une Smart qui sortait. Ça, c'est quand même...
On est dans le grand luxe, on est dans le poids lourd, on est dans... Voilà, c'est hors catégorie, là, c'est effectivement...
Oui. Le monsieur me disait, c'est une annexe, on appelle ça une annexe.
Tout à fait, oui, monsieur. Oui, comme dans le bateau, en fait. Ouais, vous ça, avez votre l'annexe. Annexe.
Un camping-car comme celui-ci, faites-nous rêver, ça coûte combien ?
Ouf, là, ça commence à 200 000 euros.
200 000 euros ?
Ah oui, oui, oui.
Ah oui,
oui, oui, oui.
Et alors,
oui, oui.
Mais alors, dites-moi, comment est-ce qu'on rentabilise son camping-car ? Parce que, imaginez, voilà, j'achète un camping-car 200 000 euros, bon, il faut l'entretenir, il faut le garer quelque part, parce que j'imagine qu'on ne va pas au bureau avec.
Oui.
comment est-ce que font les gens, justement ?
Ils le rentabilisent en l'utilisant...
Tout le temps ?
Presque régulièrement, enfin très régulièrement.
Toutes les vacances sont en camping-car.
Toutes les vacances sont en camping-car. Dans le secteur du camping-car, il y a beaucoup de gens qui sont quand même à la retraite aujourd'hui. Et donc, il l'utilise vraiment au moins 6 mois de l'année. Donc,
Peut louer aussi ?
On peut effectivement louer.
C'est une tendance qui s'accélère ?
C'est une très grosse tendance actuellement, surtout avec les nouvelles plateformes, enfin des plateformes qui ont 10 ans maintenant, de plateformes de particulier à particulier. Et ça permet en fait aux deux parties, donc aux locataires et aux loueurs,
c'est un peu le Airbnb du camping-car.
Tout à fait, et ça permet aux locataires d'avoir un camping-car un peu moins cher en location et aux loueurs de se faire un petit pécule.
On a une idée de prix pour un camping-car que vous appelez cellule, donc quand même aménagé avec une salle d'eau,
en
etc.
En prix du neuf ?
Oui, en location.
En location. Là, ça dépend de la saison, mais ça commence aux environs de 1000 euros la semaine.
1000 euros la semaine, oui, pour un camping-car, camping-car luxueux.
Pour 4 personnes.
Et ensuite, j'arrive et je vais poser peut-être la question à Nicolas Daillot. Une fois que j'arrive avec mon camping-car cellule, ça coûte combien l'emplacement ? Nicolas Daillot qui doit être
Allô
avec nous. Nicolas Daillot ?
Allô ?
Oui, on vous
entend ?
Oui, alors j'arrive avec mon camping-car. Ça coûte combien ?
Eh bien, ce sont les mêmes tarifs que ceux que je vous donnais tout à l'heure pour la tente. Un emplacement de camping. Alors, il y a souvent maintenant différentes catégories d'emplacements dans les campings selon la taille, selon qu'il est vu sur mer ou pas, etc. Selon qu'il soit raccordé à l'assainissement, puisque avec les camping-cars, justement, pour leur permettre de profiter de leur confort, ils ont la possibilité d'évacuer les eaux usées parfois directement sur leur emplacement.
Exactement,
c'est un confort supplémentaire.
Tous les jours.
Ouais. Exactement. On propose même d'ailleurs maintenant des blocs sanitaires privatifs sur les emplacements pour ceux qui veulent vraiment bénéficier du grand luxe. Mais grosso modo, on est sur les tarifs que je vous annonçais tout à l'heure. Et à préciser quand même que les campings ont, ces dernières années, adapté leurs emplacements de camping justement à ce boom du camping-car. Notamment, on installe des emplacements sans arbres pour éviter que les camping-cars se prennent dedans, notamment lorsqu'ils sont hauts. Vous prenez l'exemple d'un grand camping-car tout à l'heure avec la voiture dans le coffre. Hein. Mais également avec des prestations complémentaires, des tables, des chaises, des parasols pour leur permettre d'agrémenter leur séjour.
Jean-Michel Gallès, le meilleur camping-car du marché en ce moment en rapport qualité-prix. là, on parle beaucoup du California de chez Volkswagen. C'est quoi ? C'est parce que c'est une mode ? C'est parce que c'est le combi Volkswagen revisité ?
Oui, c'est ça. C'est le combi Volkswagen, enfin même pas revisité. C'est le combi Volkswagen moderne, tout simplement. Aujourd'hui, un combi Volkswagen, c'est quand même assez cher, malgré tout. Il faut compter entre 70 000 et 80 000 euros, toute option, voire un peu plus.
Jean-Pierre Masse, vous êtes camping-car ou pas du tout ?
Je suis curieux du camping-car, je ne l'ai pas pratiqué, mais ça pourrait m'intéresser. Maintenant, quand on regarde les prix, on est quand même très proche des prix des vacances classiques.
Eh oui.
Le panier moyen des vacances cet été pour une famille est de 2300 euros. Il a augmenté très sensiblement.
Pour combien de temps ?
À 2000. Pour 9 jours. La durée moyenne des vacances, c'est 9 jours.
Mmh.
Donc, ce qui rapproche, vous n'éloignez pas énormément du prix de vacances en camping-car quand on ajoute la location et l'emplacement.
Et donc, ça mérite la réflexion. Merci à vous trois. Merci à Jean-Pierre Masse, Jean-Michel Gallès et Nicolas Daillot. Voilà donc pour nos vacances en plein air. Je vous laisse avec Axel May et son camping-car. C'est le Tour de France. C'est tout de suite.